c'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, présenté aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 août 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 30 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Eh bien, bonsoir à tous nos amis auditeurs. Vous venez d'entendre la voix facétieuse de Victoria,
qui voulait
absolument se singulariser. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Daniel.
Voilà, bonsoir à tous nos amis auditeurs qui nous font l'amitié de nous rejoindre ce soir en direct, de mercredi 29 août. Et nous avons, faut passer au l'autre Vichy maintenant, hein, faut arrêter le vin blanc de Victoria, parce que là, franchement, le soir, c'est pas très très bien. Celui qui vient de prendre la parole, sans que j'ai eu le temps de le prononcer, tellement c'est un habitué de cette antenne, c'est monsieur Philippe Maxence. Bonjour monsieur Philippe Maxence.
Bonsoir Daniel Amiche, bonsoir Victoria, et bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Voilà, alors je vous rappelle que Philippe Maxence, il est d'abord père de famille, ce qui est son premier titre de gloire, qu'il est aussi écrivain, qu'il est journaliste, rédacteur en chef de L'Homme Nouveau et également patron d'émissions sur Radio Courtoisie.
Effectivement, tout ça.
Alors, nous avons l'habitude entre patrons d'émissions, nous avons l'habitude de nous inviter. Hein, voilà. Mais ce soir, c'est un peu spécial, Philippe, parce que, permettez que je vous appelle Philippe.
Je vous en prie, cher Daniel.
Parce que, voilà, c'est peut-être une émission qui va un peu énerver un certain nombre de
auditeurs. Certainement même.
Notamment ceux qui ne sont pas très américanophiles, mais je le préviens tout de suite que ce n'est pas une émission sur l'américanophilie, mais une émission sur l'américatophilie. Ce qui n'est pas la même chose. Je ne sais pas si tout le monde sent la nuance. Alors, nous allons parler du catholicisme aux États-Unis ce soir, avec un invité dans le studio et deux invités que nous aurons par téléphone un peu plus tard dans cette soirée. Donc Philippe Maxence, journaliste, est parti passer quelques semaines de vacances, aux États-Unis, et il revient avec beaucoup de croquis, comme on dit, beaucoup de croquis de vacances sur ce qu'il a vu dans
beaucoup,
dans
je ne sais pas, cher Daniel, ce sont vos espoirs, je ne sais pas si je vais les assurer,
mais il y a une réunion, hein.
Je reviens avec quelques images, effectivement, et vous m'avez invité pour en parler, donc j'ai accepté par amitié pour vous, mais je ne suis pas sûr de satisfaire la curiosité des auditeurs de Radio Courtoisie qui sont exigeants, et à juste titre d'ailleurs, puisqu'il ne s'agissait que de vacances et non pas d'un voyage d'études ou même d'un reportage. Donc j'y étais en vacances et j'y ai vécu comme un vacancier qui a juste ouvert un peu ses yeux, c'est tout.
Alors c'est ce qu'on vous demande, c'est ça qui va être très intéressant. Puis nous aurons également par téléphone donc deux jeunes prêtres, des prêtres français, je précise, qui sont encore aux États-Unis. Ce sont des prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. L'un vient de quitter son apostolat en Californie. Il est pour l'heure dans le New Jersey, où il est allé rejoindre, il part ce soir, enfin cette nuit, il revient en France. Il est resté, je crois, 3 ans à Sacramento, qui, comme le savent bien les auditeurs de Radio Courtoisie, et la capitale de la Californie, C'était ni de Los Angeles, ni San Francisco, c'est Sacramento. Et puis, un autre ami prêtre de la même, fraternité, donc, qui lui est en apostolat, il est quasiment curé d'une, quasi-paroisse dans le New Jersey. Alors, nous les aurons tout à l'heure, il sera à peu près midi, heure locale aux États-Unis, et nous, il sera un peu plus de 18 heures quand nous les aurons au téléphone. Philippe Maxence, nous parlerons peut-être, après avoir entendu vos explications et les commentaires de nos amis prêtres, nous parlons également de L'Homme Nouveau, qui est quand même le journal dont vous êtes le patron de la rédaction, parce que le nouveau numéro vient de paraître, enfin, le numéro de rentrée vient de paraître. Il y a eu des magazines pendant tout l'été, tous les 15 jours, mais il y a également donc un numéro, grand numéro, grand format, qui vient de paraître, avec notamment un dossier sur Summorum Pontificum, dont j'espère que vous nous direz quelques mots. Alors, bien sûr, tout de suite, un message d'une auditrice qui nous demande de donner des nouvelles de Serge Becket. Écoutez, je l'ai eu hier. Il était ni mieux ni plus mal. Enfin, en tout cas, il est sorti de l'hôpital déjà depuis 12-13 jours. J'avais souhaité savoir s'il pouvait ce soir nous dire un petit mot par téléphone, mais là, je n'ai pas réussi à le joindre dans l'après-midi, donc nous verrons si nous pouvons l'avoir. Enfin, je vous rassure, tout en vous demandant de ne pas cesser, bien sûr, vos prières aux attentions de Serge de Becquetch. Voilà. Merci pour toutes ces personnes. Alors, voilà, des messages que j'adore, voilà. Deux messages qui ne sont pas du tout d'accord. Faut qu'on parle du catholicisme, on a le droit de parler du catholicisme, mais les auditeurs ont le droit de ne pas écouter nos émissions qui traitent de catholicisme. C'est notre liberté, c'est la mienne, et puis c'est celle aussi des auditeurs, c'est comme ça que notre radio fonctionne. Philippe Maxence, vous étiez où exactement aux États-Unis?
J'étais dans l'État du Maine, donc sur la côte Est. C'est un État qui a une frontière avec le Canada. C'est un État qui borde aussi la mer, et qui a pour capitale, tout d'un coup la mémoire me manque, puisque je n'étais pas dans la capitale, mais dans une petite ville de 8000 habitants sur le bord de la mer à Rockland. Donc si les auditeurs peuvent m'aider pour me rappeler...
Pas de la province française,
mais de
l'ancienne colonie américaine. C'est l'État le plus septentrional, sur la côte est des États-Unis, dans ce qu'on appelle les 13 colonies, donc les 13 États fondateurs. C'est la partie la plus septentrionale, et de l'autre côté, évidemment, la partie la plus septentrionale, ça doit être c'est l'Oregon.
Je vous laisse affirmer, c'est vous le spécialiste, après tout, non, mais des États-Unis et de la carte du catholicisme américain, au moins, puisque les auditeurs le savent, vous avez un blog particulièrement bien fourni sur ce sujet.
C'est gentil de le signaler. L'entraîneur qui vous rend, c'est vraiment trop aimable. Alors, racontez-nous, c'était votre premier séjour ou votre...
Oui, donc encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une grande aventure, ça n'a rien d'exceptionnel. J'y étais avec mon épouse pour retrouver ma fille de 13 ans qui a passé là-bas 2 mois au sein d'une famille catholique, et on a pris un peu ce prétexte d'aller la chercher pour nous offrir ce petit voyage aux États-Unis qui avait juste la particularité, c'est que nous avons été reçus et nous avons logé chez des amis, c'est-à-dire chez la correspondante de L'Homme Nouveau qui est aux États-Unis, qui vit là-bas depuis 20 ans, donc qui est journaliste, qui a épousé un journaliste et qui sont tous les deux depuis 20 ans aux États-Unis et puis depuis une dizaine d'années dans le Maine. Donc grâce à eux, nous avons évité l'aspect touristique au sens où nous n'avons pas vu un seul hôtel, mais qu'au contraire, nous avons pu rencontrer des familles américaines et vivre au jour le jour à leur contact et connaître un peu leur mode de vie, leur façon de vivre et en retenir quelques impressions.
Alors vous étiez entre catholiques, alors est-ce que c'est pas du communautarisme catholique comme le dénonce?
Non, je ne répondrai pas à cette question. Communautarisme catholique peut-être, bon, vous savez que les États-Unis de toute façon se sont constitués à travers un certain nombre de de communautés clairement identifiées. Les Américains, finalement, ceux qui sont devenus les Américains, si on met à part ce qu'on appelle maintenant les Amérindiens, ce sont des exilés qui ont emporté avec eux-mêmes dans ce nouveau pays une partie de leur identité. Ça se voit d'ailleurs très rapidement, puisque quand nous avons atterri à Boston, nous avons pris un car pour Rockland, et au premier arrêt pour changer de car, que nous avons tout de suite remarqué les destinations Berlin, Zurich, Belfast, Paris. Il y a deux Paris, Paris Nord et Paris Sud dans le Maine.
Il y en a un
certain nombre. Mais donc tout ça pour dire que on s'aperçoit que les colons américains ont emporté avec eux un peu de leurs racines européennes qui sont toujours présentes à travers ces noms, même si la prononciation parfois est un peu surprenante pour des noms qui nous sont communs.
Alors, ce que vous dites est intéressant, parce que c'est votre
premier... Merci, Daniel.
Non, mais c'est
un encouragement.
Attendez, parce que vous allez voir, je vais vous pousser dans votre tranchement. C'est le premier contact avec les États-Unis que vous avez, et vous ne vous sentez pas immédiatement dépaysé.
Alors, attention.
On arrive bien sûr dans un pays qui est étranger, avec une autre culture qui s'est accumulée au cours des générations, mais est-ce que vous avez ce sentiment d'être dans un pays aussi étranger que si vous étiez allé à Tokyo ou à Pondichéry?
Eh bien, écoutez, d'abord, n'étant pas allé à Tokyo, je ne peux pas faire de comparaison. Ce que j'aimerais dire, c'est que il me semble que je n'ai pas visité les États-Unis. J'ai vécu une quinzaine de jours dans une partie des États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en m'entretenant avec des Américains, eux-mêmes m'ont expliqué qu'à leur sens, il y a cinq grandes parties aux États-Unis, et la façon de parler, la culture, peut-être les modes d'habitation, j'ai pas assez de comparatifs, peut-être même la cuisine, enfin un certain nombre de choses peuvent être très différentes d'une partie à l'autre des États-Unis. Ce que j'ai vu, ce n'est seulement qu'un tout petit bout des États-Unis, à savoir donc cet état du Maine qui reste ancré pas mal dans cette culture européenne. Au moins on se fait fi de pouvoir entretenir une conversation, de parler des grands auteurs européens, d'essayer de parler même les langues européennes. Est-ce que c'est vrai ailleurs dans les autres États de cette Amérique-là? Je suis incapable de le dire personnellement, des spécialistes pourraient le dire.
Ah, nous poserons des questions à nos deux prêts tout à l'heure.
Mais je suis sûr que des auditeurs bien plus renseignés que moi sur ce sujet pourront apporter d'ailleurs leur contribution.
Alors on fait un tout petit point sur le catholicisme aux États-Unis, parce que c'est un sujet qui n'est pas très, très, très connu.
Peut-être qu'avant, ce que j'aimerais dire, c'est que la première vraie impression que nous avons eue, ce qui nous a frappé en pénétrant dans le Maine, c'est... il faut que je fasse attention au vocabulaire que je vais employer, c'est l'homogénéité de la population. disons que ce qui a été très frappant, c'est de voir combien cette population était uniquement de souche européenne, donc pour parler un peu plus clair, il n'y avait que des blancs. Il y avait des blancs, encore des blancs et toujours des blancs, absolument pas de latinos comme on voit ailleurs aux États-Unis.
Un peu d'amérindiens quand même. Hein.
Oui, puisqu'il y a cinq dans l'État du Maine, il y a cinq réserves d'indiens, donc on en a croisé quelques-uns, pas spécialement ceux qui vivent dans les réserves d'ailleurs, mais ceux qui sont déjà mélangés au reste de la population. Absolument pas de noir. Le seul noir que nous avons rencontré était un marin de la Navy, puisqu'il y avait un porte-hélicoptère qui était à quelques encablures de Rockland, donc il était en visite. Sinon, pour un Français qui vit en région parisienne, c'est absolument un choc qui frappe tout de suite de ne voir que cette population blanche.
Alors, on va donner quelques détails pour que nos auditeurs comprennent bien pourquoi l'émission doit être intéressante, et s'interroger sur le catholicisme aux États-Unis, c'est une chose très intéressante. Bon, savoir que le catholicisme aux États-Unis démarre officiellement, hein, avec l'érection du premier diocèse, Donc c'est en 1789, c'est le diocèse de Baltimore, dans le Maryland, qui couvre les 13 premiers États, c'est-à-dire les 13 anciennes colonies, bon, qui ont fait sécession de la couronne britannique une vingtaine d'années plus tôt. 1789, il y a donc à l'époque donc un évêque, qui était d'abord vicaire apostolique, je crois, dans les 10 années qui ont précédé, ou les 15 années qui ont précédé. Un évêque, 11 prêtres en 1789, pour une population totale des premiers États-Unis, estimée à peu près 4 millions d'habitants. Sur ces 4 millions d'habitants, environ, difficile à savoir, mais en 30-35 000 catholiques sur 4 millions. C'est une proportion extrêmement faible. On le sait puisque le premier évêque de Baltimore avait fait quelques années au préalable un rapport au Saint-Siège qui restait dans les archives du archive du Saint-Siège. Aujourd'hui, la situation est quand même vraiment très différente puisque nous sommes 230 ans à peu près plus tard. Et nous nous retrouvons, non pas avec un évêque, mais nous nous retrouvons avec, il y a 205 diocèses ou archidiocèses aux États-Unis, donc ça veut dire à peu près 260-270 évêques avec les auxiliaires. On se retrouve avec une population de baptisés catholiques qui est d'un peu plus de 67 millions. 67 millions, une partie de 3500 est à 67 millions. On avait 11 prêtres. À l'époque de la création du premier diocèse, on a aujourd'hui 42 000, un peu plus de 42 000 prêtres diocésains ou prêtres réguliers. Donc on voit que les choses ont explosé de façon tout à fait phénoménale. Alors on va, si vous voulez bien, Philippe Maxence, essayer de joindre maintenant nos correspondants américains, parce que comme ça nous allons avoir peut-être des informations précise sur, encore une fois, deux situations très particulières, parce que ce sont des prêtres traditionnels, donc il faut bien le préciser, qui ont été en apostolat aux États-Unis, l'un sur la côte est, tout près du Maine en fin de compte, puisqu'on est dans le New Jersey, qui est un tout petit peu plus au sud, et l'autre, radicalement de l'autre côté du continent nord-américain, c'est-à-dire on ne peut pas être plus à l'ouest, c'est la Californie et c'est Sacramento. Donc nous avons ces deux prêtres, l'un qui est toujours en fonction et l'autre qui est en train de revenir au pays natal. On va lui souhaiter d'ailleurs la bienvenue, j'espère qu'on le verra bientôt à Paris. Non, je crois qu'il va être en place à Lyon. Alors, ben, on salue très amicalement nos deux amis prêtres qui nous ont rejoints. Je pense que vous nous entendez bien.
Oui, je vous entends.
Eh bien, c'est parfait. Parlez le plus près possible de votre combiné téléphonique pour qu'on puisse vraiment très très bien vous entendre. Alors, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes Monsieur l'abbé Guichard. Vous êtes prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre et vous êtes en quelque sorte curé d'une quasi-paroisse. Oui. Qui se trouve, alors là c'est un peu compliqué parce que je crois que c'est un nom indien, à Pequannock.
Exactement.
Dans le New Jersey, donc c'est-à-dire sur la côte est des États-Unis. Et vous avez à côté de vous un autre jeune prêtre qui est l'abbé Jérôme Lebel, de la même fraternité, et qui lui desservait donc la communauté, enfin les fidèles traditionnalistes en quelque sorte, à l'autre bout des États-Unis, c'est-à-dire en Californie, à Sacramento. C'est bien cela ?
C'est exactement.
Bien. Alors, monsieur l'abbé Guichard, d'abord on entend à votre voix que vous êtes un homme encore jeune, un jeune prêtre. Vous avez été ordonné quand ?
En 2004.
En 2004, donc c'est tout récent. Et vous, votre première mission, ça a été les États-Unis ?
Exactement, oui.
Et parce que vous parliez très bien l'anglais, mieux que le latin ?
Non, pas du tout. Je connaissais mieux l'allemand, mais à l'époque de l'ordination, les choses étaient toujours un petit peu fermées en France.
Oui, et puis surtout, oui, il y avait des problèmes d'apostolat qui étaient difficiles à trouver en France, et aux États-Unis, c'était un peu plus simple. Alors, avec quelle idée êtes-vous arrivé aux États-Unis ? Vous avez peut-être un peu lu des livres avant, mais qu'est-ce que ça vous disait d'aller faire un apostolat dans le New Jersey ?
Donc, j'ai demandé les États-Unis avec l'idée de voir quelque chose de nouveau. Je ne m'attendais à rien de spécifique.
Mm-hmm.
Je disais, on verra bien ce que l'on trouvera sur place, mais je ne m'attendais à rien de particulier.
Oui.
Et donc, les premiers mois ont été une grande découverte d'une autre culture, ou plutôt d'un manque de culture, ou d'un assemblage de différentes cultures.
D'accord.
Avec des tas de points positifs et d'autres choses que ces gens ici manquent.
Ben nous allons en parler. Alors, quand je dis que vous êtes quasiment curé d'une quasi-paroisse, le quasiment curé n'est pas très canonique comme expression, mais la quasi-paroisse, en fait, l'est. Vous êtes vraiment dans une quasi-paroisse. Pourriez-vous nous dire ce que c'est que la quasi-paroisse ?
Une quasi-paroisse, en fait, c'est une paroisse qui, pour une circonstance particulière, c'est le code droit canonique qui le dit, n'a pas le titre de paroisse. Donc, circonstance particulière, ici, c'est que cette chapelle était une chapelle indépendante, ce qui est une chose assez courante
aux États-Unis, oui.
Et donc, qui a été réconciliée avec le diocèse. Et dans le processus de, on va dire, de réunification, il a été donné, disons, des différents pouvoirs canoniques et qui nous donnent en fait les pouvoirs d'une paroisse, mais jamais la chapelle n'a été érigée en paroisse.
En paroisse propre, pour l'heure. Elle pourra le devenir, pour l'instant, ne l'est pas. Ça veut dire que vous pouvez bien sûr célébrer la Sainte Messe, ça tombe sous le sens, mais également donc baptiser, recevoir les sacrements de mariage, recevoir le sacrement de pénitence, etc., etc.
Exactement, on a tout.
Comme si vous étiez un curé normal. Alors, c'est le diocèse de Trenton, c'est ça, le vôtre ?
Non, c'est Patterson.
Ah. C'est lequel, le vôtre ?
Qui est Patterson, qui est au nord, tout à fait le nord du New Jersey. Ça couvre tout le nord et le nord-ouest du New Jersey. Et c'est à 40 minutes au nord-ouest de New York City.
D'accord, donc tout près de la ville de New York. Ouais. Qu'est-ce qui vous a, vous, prêtre traditionnel, vous arrivez là-bas aux États-Unis, vous étiez déjà allé en vacances ou en séjour aux États-Unis ?
Jamais, ça a été mon
premier. Jamais, c'était votre premier. Enfin, c'était votre premier voyage aux États-Unis et votre premier apostolat, en fin de compte. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé à votre arrivée dans les premiers jours de votre séjour ?
Au point de vue géographique, je dirais le manque de tout, je dirais vraiment de culture. On trouve une église catholique à un coin de rue, vous roulez deux minutes et vous trouvez une protestante, une épiscopalienne, et puis tout est construit de briques et de brocs et étendu sur des dizaines et des dizaines de kilomètres carrés. Donc on a du mal à avoir une unité au sein d'une ville, d'un village. On n'arrive pas à voir où ça commence, où ça termine.
Ouais.
Je dirais ça au point de vue géographique et au point de vue, après, je dirais des relations humaines, où qu'on se promène, parce qu'ici, vous voyez, on se promenait en soutane en France, vous voyez, les gens se retournent dans la rue. Ici, les gens sont un peu interloqués, mais ils vous demandent, alors vous êtes quoi, prêtre catholique ? On fait oui. Ah d'accord, et ça se passe bien, et c'est fini, c'est adopté.
Ouais. Mais la soutane ne distingue pas tous les prêtres catholiques aux États-Unis, parce que tous ne portent pas la soutane. Ce sont rares ceux qui portent la soutane.
En général, en clergyman.
En clergy, voilà.
C'est le port.
Oui, oui. En règle générale, c'est l'usage. C'est un usage presque majoritaire, sans aucun
Exactement,
doute.
Exactement, oui.
Mais alors, encore une fois, donc, vous dites, ce qui vous a surpris, c'était donc cette espèce de... pas d'accumulation, mais de juxtaposition de tous ces temples, ces lieux de culte. Mais vous êtes arrivé pour apporter votre ministère à une communauté très particulière. Ce sont les catholiques, disons, de sensibilité traditionnelle, ceux qui sont attachés à ce qu'on doit aujourd'hui nommer la forme extraordinaire de l'unique rite romain. Mais alors, il y avait déjà une communauté sur place, mais qui était donc dans une, ce qu'on appelle une paroisse indépendante, c'est-à-dire une dépendante de personnes, avec un prêtre qui était là qui devait desservir cette communauté. Comment se sont passées les premières rencontres avec cette communauté ? C'est une communauté importante ?
C'est une communauté de, nous dirions, 450 fidèles. La chapelle n'est pas très grande. Je pense on peut mettre 120 à 150 personnes. Donc nous avons 4 messes le dimanche. Et c'est assez difficile à cause de cela de rencontrer tout le monde.
Tout le monde, oui. Oui.
Mais il y a beaucoup à faire. Nous avons une école avec 68 élèves et les gens sont très fervents.
C'est ça qui
frappe tout de suite.
Alors, on va parler un peu de la ferveur des catholiques américains. Mais cette école existait déjà ou c'est une création de la fraternité
Saint-Sophia ? C'est une école qui existait déjà. Tout comme les gens se sont mis, je dirais, à leur compte dans les années 70 en créant cette chapelle, de même, ils avaient décidé de créer une école pour se mettre à part de tous les scandales qui arrivaient les écoles publiques et tout ça. Et en fait, les deux ont fusionné il y a, je pense, 25 ans. Donc nous avons l'école et la paroisse au même endroit.
Mais alors, quand vous dites que les paroissiens avaient en quelque sorte acquis l'église et l'école, alors c'est quel est le système juridique qui permet cela ? Parce que...
C'est une association.
Voilà, c'est un trust, comme on dit, c'est ça, une espèce de, pas de trust, mais de...
Une corporation.
Voilà, c'est ça.
Trustees, voilà.
Trustees, oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que les gens ont acheté, acheté le bâtiment, quoi.
Exactement, il y a même, il y avait 5 familles qui ont acheté le bâtiment, et il y a encore 2 des familles qui sont ici, et il y en a même qui ont hypothéqué leur maison pour pouvoir acheter ce bâtiment.
D'accord. Mais alors, comment ça se passe quand les gens décèdent, la propriété passe aux enfants, ou...
Non, en fait, la propriété, c'est eux qui l'ont acheté, mais après, c'est passé à l'association.
D'accord.
Donc, si au départ ils ont mis de leur argent, maintenant plus rien ne leur appartient en propre.
Bon, alors c'est-à-dire que, parce qu'il faut bien préciser, ça c'est une notion, en France, c'est incompréhensible, c'est absolument incompréhensible. C'est-à-dire que une communauté de catholiques a acheté un terrain, puis a fait construire une chapelle, une petite église, et puis a dit aussi sur un bout de terrain qu'il y avait en face ou à côté, a fait construire une école catholique pour voir que les enfants aient un enseignement catholique, et ceci appartient en propre à des trustees, donc c'est-à-dire une association, hein, comme une association ici serait une société civile immobilière, par exemple en France, une chose de ce genre. La question, c'est que les bâtiments, l'église, le bâtiment, les terrains n'appartiennent pas au diocèse.
Non.
C'est-à-dire que, voilà, c'est le problème, ce qu'on a vu avec, bon, vous connaissez.
C'est une exception ici.
Ouais, c'est quelque chose d'assez particulier, très anglo-saxon, je trouve, hein, non?
Oui, oui. En général, les églises, les bâtiments appartiennent au diocèse.
Oui.
Mais ici, de par le passé de cette chapelle, les bâtiments appartiennent à la chapelle, donc aux membres de cette association.
D'accord. Comment, quand est né l'apostolat dans cette à Pequannock, avant que vous êtes la première fraternité, disons, de droit pontifical, reconnue de droit pontifical, qui a donc pris en charge cette communauté, donc il y a à peu près 3 ans maintenant, c'est ça?
Plus. En 93, nous sommes arrivés.
En 93. Et quels ont été et quels sont les rapports avec l'ordinaire, c'est-à-dire avec l'évêque?
Très bon. Très très bon. Là, l'évêque a changé il y a... L'évêque était très libéral, le précédent évêque qui a pris sa retraite il y a 3 ans. C'est très libéral, mais qui dit libéral, du vrai libéralisme avec tout le monde.
Donc voilà, même avec les intégristes, entre guillemets, comme ils disent.
Exactement.
Voilà.
La paroisse, juste le patelin à côté, c'est les plus libéraux de la côte Est. Ils font parler d'eux dans les journaux. Mmh. Et nous, ben, on est juste à côté et tout le monde vit ensemble.
D'accord.
Et l'évêque actuel qui a pris ses fonctions là dans le diocèse il y a un peu plus de 3 ans, et très, ça se passe très très bien, je l'ai contacté il n'y a pas longtemps, il viendra pour nous conférer les confirmations en juin prochain, je l'avais invité en février dernier, il était venu dire une messe pontificale à la paroisse en février, oui c'est ça, le 11 février dernier, donc nous avons de très bonnes relations.
Bon. Sur la piété de vos fidèles, parlez-nous un petit peu de la piété de cette communauté de 450 fidèles quand même, que vous pastorez, alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Et puis après, je crois que Philippe Maxence aura peut-être une question à vous poser.
Très bien. La piété, je dirais, c'est une piété simple, en ce sens que les Américains, on peut les voir comme des grands adolescents, de grands enfants, mais on leur dit, voilà, on va visiter une famille, par exemple, alors on va dîner chez eux, et puis après, ils vont vous proposer de dire le chapelet avec la famille. Donc, très bien, on va dire le chapelet avec la famille, sachant que le chapelet le disent tous les jours en famille, donc avec tous les enfants, du plus petit au plus grand, que ces gens viennent à la messe de très loin. Je pense que la moyenne, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de voiture pour les familles. Et elles viennent à la messe en semaine. Et ça, ce ne sont des choses qui ne les effraient pas. Par exemple, cette année, nous allons avoir la messe quotidienne pour toute l'école.
Oui.
Je n'ai pas entendu une seule famille se plaindre, au contraire, tous les parents nous félicitent de ça.
Donc, enchanté. Le fait donc que les parents avec les enfants récitent le chapelet en famille est une anecdote que Philippe Maxence me racontait, parce qu'il a, Philippe Maxence est là, donc il vous salue bien sûr, et vous avez vu ça aussi?
Oui, oui, tout à fait, ça se passe, et c'est,
non, mais...
propose comme ça, c'est...
Monsieur l'ami Guichard, là je m'adressais à Philippe Maxence. Évidemment, on n'est pas à la télévision, vous ne pouvez pas nous voir, on est en train de se faire des signes, se passer des petits papiers. Alors Philippe Maxence voulait faire un tout petit commentaire là-dessus.
Bonsoir Monsieur l'abbé tout d'abord. Oui, effectivement, comme je reviens des États-Unis et que j'étais dans un autre état de la côte Est, à savoir le Maine, parmi les catholiques, j'ai effectivement remarqué ce que vous venez de dire, donc je ne peux qu'apporter mon propre témoignage, mais qui va tout à fait dans le même sens. une chose qui m'a fortement impressionné, c'était effectivement tous les soirs dans les familles catholiques, et j'en ai rencontré un certain nombre, le chapelet est dit en famille, du plus petit au plus grand, c'est effectivement quotidien, et ce que j'ai vu moi, c'est que on y invite ceux qui passent à ce moment-là à la maison, qu'ils soient d'ailleurs catholiques, protestants, etc. Tout le monde est invité au chapelet. Alors souvent, effectivement, les protestants trouvent une bonne raison de fuir très rapidement cette entre guillemets superstition. Mais j'ai vu comme ça des familles nombreuses de catholiques rassembler tous leurs amis parce que un venait chercher le sel pour parce qu'il en avait plus chez lui et se retrouver à rester dire le chapelet très volontiers d'ailleurs. J'ai vu des enfants sans aucun problème dire le chapelet, et comme ma fille a vécu 2 mois aux États-Unis, elle en est revenue, elle a 13 ans, en disant maintenant son chapelet tous les jours sans aucune difficulté. Et du coup, les Américains nous ont convertis à la facilité du chapelet en famille le soir.
Belle tradition et magnifique pratique. Monsieur l'abbé, vous restez encore combien de temps à Pequannock?
Je ne sais pas.
Vous savez pas, hein, ça va dépendre de vous. Vous voulez que je leur dise un petit mot, monsieur supérieur? Mais je crois que vous vous embêtez pas du tout parce que vous découvrez des tas de choses tout à fait extraordinaires.
Oui, non, il n'y a pas de quoi s'embêter. Vous savez, avec une paroisse de cette taille-là,
c'est pas mal, hein.
On n'a pas le temps de s'ennuyer.
Est-ce que vous avez un autre prêtre de la fraternité?
Nous sommes trois.
Vous êtes trois, hein, sur Père Connard.
Nous sommes trois. Nous allons dire à la messe à New York, à la ville de New York, une fois par mois. Nous desservons de façon ponctuelle tel ou tel endroit quand il faut remplacer des prêtres. Sachant quand même, à une heure de voiture d'ici, le dimanche, il y a cinq ou six messes traditionnelles.
D'accord, c'est pas mal. Philippe Axence, vous voulez vous poser une question peut-être?
Oui, qui n'a presque pas de rapport avec la question de la liturgie, mais je voulais savoir si vos paroissiens s'intéressent à tout ce qui relève de la doctrine sociale de l'Église, et notamment dans sa version anglo-saxonne, à savoir le distributisme initié par Chesterton et Hilaire Belloc.
Quelques-uns, mais on trouve ce genre de personnes au compte-gouttes. Les Américains, et c'est un confrère qui m'avait dit ça, qui a fait ses études ici, au séminaire, il m'avait dit, les Américains en général sont moins intellectuels que les Français. Donc, autant ils comprennent une très grande piété, un très grand désir de sainteté, ils veulent devenir des saints, autant quand vous proposez des conférences, des cours de catéchisme pour adultes et des choses plus évoluées, c'est beaucoup plus difficile à toucher les gens. Vous trouverez un certain nombre de personnes, mais toujours les mêmes. Donc je dirais, j'en connais quelques fidèles ici, oui, mais d'une façon générale, vous toucherez beaucoup moins de monde que dans une paroisse lambda en France.
Mmh. Oui, ça corrobore un petit peu ce que j'ai observé, donc c'est-à-dire c'est effectivement ce souci de la piété et peut-être moins une démarche de formation intellectuelle.
Exactement.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Eh bien, monsieur de la Guichard, je vous remercie beaucoup de toutes ces précisions. Bien sûr, vous faites le meilleur pour votre poste là, mais nous allons maintenant peut-être, avec votre permission, interroger votre confrère. Alors, c'est un confrère qui est venu ici, il avait des vacances à prendre avant de rentrer en France, il a préféré les passer en ministère auprès de vous, c'est quand même très très sympathique, hein. Bon, voilà. Et puis, donc, c'est monsieur l'abbé Jérôme Lebel, je pense qu'on l'a en ligne.
Voilà, je vais vous le passer.
Merci, monsieur l'abbé Guichard. Voilà, c'est donc l'abbé Guichard de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. Monsieur l'abbé Jérôme Lebel.
Oui.
Eh bien, je vous salue, monsieur l'abbé. Comment allez-vous?
Très bien.
Alors, vous rentrez au pays, à ce qu'on dit?
Oui, dans quelques heures.
Dans quelques heures, vous serez rentré en France. Vous êtes resté combien de temps aux États-Unis?
À peu près 2 ans.
À peu près 2 ans. Alors, vous étiez à l'autre bout des États-Unis, c'est-à-dire sur la côte ouest, à Sacramento, donc, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure à nos amis auditeurs, la capitale de la Californie, ce qui n'est pas très très sûr, et dans certains quiz télévisés, les gens se plantent à chaque fois, on pense que c'est San Francisco ou Los Angeles, c'est Sacramento. Et c'est une des plus nombreuses communautés de rites traditionnels aux États-Unis, puisque je crois qu'elle comportait à l'époque où c'était votre actuel supérieur général, monsieur l'abbé John Burke, qui en était le chapelain, comportait déjà 800 fidèles. On en est où aujourd'hui?
2 ans après, ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé, c'est à peu près le même nombre, le même nombre.
On est limité par l'espace.
Alors, racontez-nous.
La chapelle ne peut prendre que 250 personnes.
D'accord.
Donc, nous avons 3 messes, et beaucoup de personnes se mettent dans les allées. Donc on est, oui, limité par l'espace, limité aussi par le parking, parce qu'il y a beaucoup de paroissiens qui viennent en voiture.
Ben parce qu'ils viennent de loin très souvent. Hein.
Exactement.
Alors je dis quand même à nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est que le diocèse de Sacramento, donc dans lequel vous avez desservi la communauté traditionnelle, est quand même un très gros diocèse. Évidemment, c'est un diocèse à la taille des États-Unis, puisqu'il fait quand même 110 000 km carrés, c'est-à-dire à peu près le cinquième du territoire français. Donc vous voyez, c'est quand même il y a de quoi bouger. Il faut de la voiture, hein. Il faut de la voiture et il faut du parking. Il n'y a vraiment pas de doute. Hein. Alors, vous-même, quand vous êtes arrivé, en 2005, c'est ça, non, à peu près?
Oui, j'ai été ordonné en juin 2005.
Et vous êtes tout de suite, on vous a donné, alors avec votre calice, on vous a donné un visa pour les États-Unis. Ça a été votre cadeau de sacerdoce, c'est ça?
On m'a tellement donné le calice, mais bon.
Hein? Vous n'avez pas donné de calice en plus? Ah, c'est vraiment pas possible. Et donc, vous êtes parti quasiment immédiatement. Vous étiez déjà allé aux États-Unis pour des séjours linguistiques ou en voyage ou en vacances?
Non, l'ancien supérieur général m'a demandé de faire mon diaconat dans l'état de l'Ohio.
Oui.
Pendant 2 mois.
D'accord. Avant l'ordination.
Mon premier bain de diacre.
Oui.
Et quelques mois après l'ordination, donc après avoir aidé quelques prêtres français dans leur apostolat traditionnel.
Oui.
Pour l'été 2005, je me suis présenté en septembre dans l'état de Californie.
C'est un énorme voyage, ça fait donc un certain nombre d'heures d'avion, je peux vous garantir. C'est très long. Alors, racontez-nous votre premier contact. Qu'est-ce que vous avez? Alors, on est dans un autre monde, hein, parce que sur la côte Est, on est dans ce qu'on appelle un peu la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire avec des formes de tradition très particulières, un peu british d'ailleurs. Bon, de l'autre côté, quand on est en Californie, on est dans un monde totalement différent, qui est un monde quand même très imprégné par la culture hispanique. On est à l'autre poids de l'alter américaine. Alors, racontez-nous quelle a été votre première impression. Quand vous êtes arrivé, vous aviez déjà découvert l'Ohio, mais quand vous êtes arrivé en Californie, c'est quand même un monde tout à fait différent, non?
Ah oui. Ce sont les palmiers, le soleil, beaucoup de, comme vous avez dit, de Mexicains, des Philippins.
Philippins,
oui. C'est très important. Et aussi, mais ce ne sont pas des fidèles, des Russes. La communauté russe est assez importante. On sait tous que Gorbatchev habite maintenant en San Francisco et aide beaucoup...
Voilà. Monsieur l'abbé, si vous pouviez parler un tout petit peu plus près de votre microphone, enfin du microphone de votre téléphone, ce serait parfait.
Je comprends.
Voilà, pour qu'on vous entende bien. Alors vous, on a discuté à l'instant avec votre confrère Benoît Guichard de la piété des Américains, en tout cas des Américains de la côte Est.
Oui.
Qu'en est-il de ceux de la côte Ouest?
Tout aussi fervent. Bien des fois, en visitant des familles le soir, par exemple le dimanche soir, des familles qui demandent à dire, à chanter les complis.
Ça, c'est quand même rare. En France, c'est très rare. Hein.
Donc il y a un grand appétit. Il y a un grand appétit spirituel et aussi culturel. Un grand appétit de découvrir la culture latine, le grégorien, l'architecture, tout ce qui est peinture et énormément la musique. Sont des personnes qui ont une grande motivation à la paroisse de Saint-Stephen, que l'on traduira par Saint-Étienne en
oui.
français. Donc à la paroisse de Saint-Stephen, il y a un maître de chapelle qui est payé plein temps avec un organiste. Donc toutes les chapelles ne peuvent pas, enfin n'ont pas cette aisance, cette présence de maître de chapelle comme nous avons. Et les paroissiens les utilisent pour prendre les cours. Donc la chorale grégorienne est une chorale de 15 personnes et la polyphonie est une chorale de 45 personnes avec beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes adultes.
C'est bon, musicalement, c'est convenable?
Ah, oui.
C'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une... Là, vous revenez au vieux pays, hein, si je puis dire, donc oui. Vous allez avoir une... Ça va vous faire un choc. Hein, ouais. Si vous êtes pendu depuis longtemps, ça a quand même beaucoup changé, je peux vous le dire, en 2 ans. Alors, la question de savoir, c'est quel souvenir allez-vous garder au fond du cœur et qu'est-ce que peut-être vous allez regretter? Évidemment, il ne faut pas regretter, parce que c'est un nouvel apostolat qui va s'ouvrir à vous, donc il ne faut pas regretter. Mais qu'est-ce que vous allez garder au fond du cœur et qu'est-ce que... voilà, qu'est-ce qui va peut-être vous manquer?
Je dirais, tout de suite...
À parler hamburger.
Je dirais l'atmosphère paisible. Un certain confort spirituel. Une grande atmosphère paisible. Où il n'y a pas de grande tension entre l'épiscopat et...
Voilà.
Et les prêtres. Il y a très peu de tension avec les prêtres diocésains. La Fraternité Saint-Pierre, comme vous savez, on assiste à toutes les réunions diocésaines. On participe même parfois aux retraites et il n'y a aucun, enfin de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait là-bas en Californie, je n'ai eu aucun manque de charité de la part de quiconque.
Alors j'ai
reçu les félicitations des évêques et pour une attitude.
Oui, cordial. Enfin, vous participez tout à fait à la vie du diocèse. C'est tout ce qui est souhaitable, et c'est aussi une des dispositions, je crois, du motu proprio summorum pontificum du Saint-Père, c'est que tout le monde, quelle que soit la forme du rite ordinaire et extraordinaire, bon, travaille ensemble pour le bien de l'Église et le salut des âmes. Enfin, je crois que c'est quand même le but de votre boulot, me semble-t-il. Bon, alors ça m'étonne pas trop que, vraiment, ça va pas faire plaisir à nos auditeurs gaullistes, parce que malheureusement, l'évêque de Sacramento s'appelle Végan. C'est vrai, c'est Végan. Végand. C'est ça, hein, c'est William Végan. Voilà, ouais, c'est amusant comme tout. Bah, écoutez, donc, alors, vous allez quand même laisser un petit peu de... Oui, vous aurez un petit peu de la nostalgie du pays. Vous ne savez pas quelle est votre prochaine affectation.
Si. Je travaille dans l'archevêché de Lyon.
À Lyon, très bien. Très bien, donc alors ça nous donnera peut-être l'occasion de nous voir un peu plus souvent, parce que je veux dire que la Californie, je ne veux pas tout le week-end, hein, quand même. Bah, enfin, bon. Écoutez, messieurs les abbés, donc monsieur l'abbé Lebel, Jérôme Lebel, donc alors d'abord bon voyage de retour au pays. Je crois que vous allez laisser beaucoup d'amis là-bas aux États-Unis. J'ai le sentiment que vous conservez bien sûr des relations avec un certain nombre de vos fidèles qui vont vous sans doute vous voir partir avec beaucoup de tristesse. Et puis également tous mes vœux de succès de votre apostolat en France, là où on aura l'occasion de se voir, et puis également tous mes vœux d'apostolat aussi pour M. l'abbé Guichard, qui encore va rester un certain nombre de temps aux États-Unis. Merci messieurs les abbés de votre apostolat. Bon voyage de retour, monsieur l'abbé Lebel, et puis j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir à Paris, et peut-être même d'ailleurs dans les studios de Radio Courtoisie, si un jour vos supérieurs vous y autorisent, eh bien on aura grand plaisir à vous recevoir pour une autre émission, peut-être sur l'Amérique ou sur le Lyon, pourquoi pas. Eh bien, que Dieu vous garde tous, et merci de ces beaux témoignages que vous avez donnés.
Merci, monsieur Michel.
Voilà, donc c'était donc messieurs les abbés Benoît Guichard et Jérôme Lebel de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, deux prêtres français qui ont été en apostolat aux États-Unis. Vous voyez qu'ils continuent à faire de la mission, les Français, quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Philippe Maxence? Ce sont des beaux témoignages, vous?
Oui, effectivement, c'est
quelque chose de nouveau, hein, c'est un autre monde.
Ah, je crois que c'est un autre monde, et il me semble qu'il a bien été, d'après ce que le peu que j'en ai vu, mais qu'il a bien été résumé par l'abbé Guichard, à savoir que chez ces catholiques américains, il y avait effectivement une grande piété qui n'a rien de qui a l'air tout à fait naturel. Ça découle de sources. Elle est très spontanée, très vivante, très joyeuse. Elle s'embarrasse pas de politesse quand on reçoit quelqu'un qui est étranger à la famille. On lui propose de réciter le chapelet. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, comme on lui propose de rester dîner, parce que c'est un acte normal entre gens civilisés, si je puis dire, entre catholiques. Et ça corrobore le fait aussi que le peuple américain, là, si on veut étendre et sortir un peu du seul catholicisme, est apparu, moi, comme un peuple encore extrêmement jeune, un peuple qui a un certain dynamisme, qu'on sent que nous sommes la vieille Europe quand on est ici, et quand on se trouve là-bas, on voit encore un peuple jeune, fier de son pays. J'étais très frappé par le nombre de drapeaux américains sur chacune des maisons. Il y en a parfois plusieurs. Alors nous étions un mois après le 4 juillet, mais enfin un mois après quand même, c'est assez marquant, même pour notre fête nationale. On voit rarement des drapeaux sur nos maisons. Là, c'était donc un mois après, les drapeaux étaient encore présents. Ils sont très fiers de leur pays. Pas toujours très fiers de ce qu'ils font à l'extérieur. Ça, c'est une question parmi ceux que j'ai rencontrés, au moins parmi la communauté catholique, qui les travaille, enfin, qui leur pose un certain nombre de soucis. Mais au moins, ils sont fiers de leur pays. Quand on arrive à Rockland, par exemple, il y a un immense drapeau qui est planté près du port. J'ai jamais vu un drapeau aussi grand de mon existence. C'est le drapeau de la ville. Enfin, ça c'est très clair. J'ai assisté à une parade, enfin un défilé, donc dans les rues de cette petite ville, encore une fois, hein, 8000 habitants. Il y avait quand la police est passée et quelques représentants de l'armée sont passés au milieu de ce défilé, ils ont été chaudement, très chaudement applaudis, et on sentait que les gens qui étaient ici sont des gens comme tout le monde, hein, c'était pas une manifestation particulièrement patriotique ni politique, et bien les ont applaudis avec beaucoup de ferveur et beaucoup de piété.
C'est un autre monde qu'on ne peut gérer. On en a trop de caricatures en France. On en a des caricatures qui sont dues à un passé politique récent qui nous a mis effectivement, qui a mis le gouvernement français un peu en opposition au gouvernement américain, mais ça c'est tout à fait étonnant, c'est un rapport entre États, c'est tout à fait normal, mais on en a tiré des conséquences qui à mon avis sont fausses, et puis alors c'est une espèce de défiance qu'on a, ou de mépris qu'on a, de l'image que... Je dirais, ce qu'il y a de pire aux États-Unis nous renvoie de lui-même. Ce sont les feuilletons, les téléfilms, etc., qui nous renvoient des États-Unis des images absolument apocalyptiques, alors que pour 90% de la population, ça n'a strictement rien à voir avec ça, parce que les États-Unis, c'est pas Chicago, c'est pas New York, c'est pas Los Angeles, c'est pas
Miami. Oui, ça c'est certainement vrai. Moi j'étais encore une fois dans le Maine, donc qui est un État quand même...
Plutôt
rural ou très lié à l'activité maritime, donc effectivement pas de Chicago, pas de Bronx dans la ville de Rockland, et enfin dans le reste du Maine quand nous l'avons visité, on ne fermait jamais les portes des voitures, on ne fermait jamais ni de jour ni de nuit les portes ou les fenêtres d'ailleurs des maisons. Je n'ai rencontré que deux policiers que je me suis empressé de filmer d'ailleurs pour avoir un petit souvenir, parce que sinon mes enfants qui n'étaient pas avec moi ne m'auraient pas cru, mais surtout auraient regretté de ne pas voir l'uniforme de ces policiers. À un moment je me suis retrouvé en campagne, enfin dans un tout petit village de campagne, Saint-Bénédicte, la voiture était grande ouverte, mais quand je dis grande ouverte, c'est que les portes étaient vraiment ouvertes, et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que j'avais laissé mon portefeuille dans la voiture, et ma caméra, que j'avais en bon touriste, si je puis dire, et donc je me suis empressé d'aller le chercher. Et l'américaine qui était avec nous, qui nous véhiculait, s'est étonnée auprès de mon épouse, mais en lui disant qu'est-ce qu'il lui prend, qu'est-ce qu'il a piqué là tout d'un coup, pour retourner comme ça en courant vers la voiture. Et donc on lui a expliqué que j'étais allé chercher mon portefeuille. Alors là, elle s'est mise à éclater de rire. Et ensuite, elle demandait pourquoi. Enfin, est-ce qu'en France, on allait chercher systématiquement son portefeuille comme ça? Là on lui a expliqué un peu la réalité française sur laquelle à son tour elle a ouvert les yeux avec beaucoup beaucoup d'étonnement. Et ça c'est vrai pour cette partie du Maine, ou c'est vrai pour le Maine, c'est certainement pas vrai pour les grandes villes, c'est certainement pas vrai pour d'autres États.
Alors, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie, que vous écoutez le libre journal de Serge Becker. J'ai ce soir par Daniel Avich avec l'assistance de Victoria. Et que dans le studio, mon invité de ce soir, après nos deux amis prêtres, c'est Philippe Maxence, écrivain, journaliste et rédacteur en chef de L'Homme Nouveau. Vous aviez quelque chose à nous dire, Victoria?
J'ai quelques messages.
Ah bah oui, mais allez-y, monsieur Maxence.
Merci, Daniel. Je voulais juste réagir à ce que vous disiez sur le fait que on a une image parfois un peu faussée en France de l'Amérique et de ne la voir que qu'à travers la violence ou un certain nombre de difficultés liées à la pauvreté. Il y a quand même des images qui sont justes que nous avons. Enfin, nous avons aussi des images justes, plus exactement, de l'Amérique. À savoir qu'il est, il est frappant aussi de voir combien l'obésité est existante. Enfin, c'est quasiment tous les Américains que j'ai rencontrés étaient touchés par ce fléau, et on comprend que ce soit une véritable cause nationale dans ce pays. Autre chose qui est vraiment prégnant et je dirais inquiétant, c'est la place de la télévision et des jeux vidéo ou de tous les gadgets que vous pouvez avoir de cet ordre-là au sein des familles, même de ces familles catholiques pieuses qui vont réciter le chapelet le soir et qui à ce moment-là éteignent la télé, mais le reste du temps, chez certaines d'entre elles, la télé fonctionnait quasiment. Enfin,
j'ai pas, plusieurs pièces de la maison.
Et dans plusieurs pièces, en tous les cas, de la maison, ou alors les enfants étaient soit dans les voitures, soit à l'intérieur de la maison avec leur console de jeux vidéo. Des choses qui existent aussi en France, mais c'est une image que nous avons des États-Unis que j'ai bien vérifiée. Autre chose qui est au point de vue économique ou au point de vue du commerce, la place stupéfiante et scandaleuse à mon sens des grandes surfaces dans lesquelles vous pouvez passer toute votre journée où tout est fait pour à la fois attirer le client, pour s'occuper de lui, pour le détendre, lui offrir des loisirs, mais de toute façon le conduire à acheter. La fameuse chaîne Walmart, qui est certainement la plus grande des États-Unis, il faut savoir que les magasins, enfin les magasins que j'ai pu voir, ne fermaient que 2 heures en 24 heures, c'est-à-dire entre 3 heures et 5 heures du matin. C'est-à-dire que le reste du temps, vous pouviez passer toute votre journée et une grande partie de votre nuit dans ce temple.
C'est un centre commercial, c'est les grands.
Non, mais c'est même plus un centre commercial, c'est un temple de la consommation. Et là, c'est le dieu dollar qui est adoré, et c'est les biens matériels qui sont donnés à contempler et à déguster. C'était un véritable lieu de communion. Tous les Américains s'y retrouvent, quelle que soit leur classe sociale, et ils communient là dans un seul élan vers le dieu consommation. Ça, c'est une réalité américaine.
On commence à trouver aussi pas mal en France.
On commence malheureusement à trouver en France, mais on voit d'où elle vient, et c'est pas la plus belle face des États-Unis.
Des Amériques. Alors Victoria, donc peut-être avez-vous quelques... Oui, il y a eu des messages d'auditeurs, oui.
Le premier, c'est un auditeur qui nous dit que la capitale du Maine est Augusta.
Augusta, voilà. Merci beaucoup à lui.
Cher auditeur, voilà.
Heureusement qu'il y a des gens cultivés sur les ondes de Radio Courtoisie.
On n'a pas notre...
Non, mais je suis impardonnable, là.
Et puis après, il y a peut-être un petit message un peu provocateur.
Non, allons, on écoute tout, ici on prend tout.
Va-t-on enfin nous parler des difficultés financières de plusieurs évêchés catholiques,
oui,
à la suite des procès de la conduite pédophile de nombreux prêtres?
Alors bon,
va-t-on aussi nous parler des succès éclatants de la secte évangéliste, oui, qui inquiète beaucoup le Vatican et qui est fort capable de vider les églises catholiques?
Alors, ce message, je remercie l'auditeur pour son message, mais il nous l'a déjà envoyé il y a 15 jours ou 3 semaines.
Non, mais c'est un très bon message, d'ailleurs.
C'est un message intéressant.
Il se répétita.
Oui, mais c'est bien, je suis pour.
Et puis l'autre, c'est, cher Daniel Amich, puisque vous allez parler de catholatrie, ce dont je vous félicite, c'est peut-être le jour de poser la question que nous avons évoquée. Où trouver la source de la citation de sa sainteté Pie XII, introuvable sur le net ? La religion juive, c'est maman. Elle se trompe, mais c'est maman. Bien courtoisie.
On m'a déjà posé cette question la semaine dernière. J'avoue que je sais pas où ça. J'ai pas repris tous les. Je sais pas, parce que je sais pas, c'est peut-être une interview, c'est peut-être. Je sais pas, je peux pas dire là vraiment.
Une interview de Pilou, ça m'étonnerait.
Alors, Philippe Maxence, vous voulez répondre à cette question double de.
Non, moi j'ai pas vraiment de réponse. Pardon, bah, allez-y, Victoria.
Non, ça y est.
C'était une question double.
Il y a deux auditeurs.
Ce que je peux dire, c'est que les catholiques que j'ai rencontrés ne se cachent, enfin, ne se voilent pas la face sur la crise financière. C'est vraiment pas le plus important. D'ailleurs, la crise financière, le vrai scandale, il est pas là. Il est dans les actes qui conduisent à cette crise financière, sur lequel. Mais là, vous êtes plus au courant, Daniel, de ce dossier, donc je vous laisserai parler. Donc les catholiques que j'ai rencontrés sont tout à fait conscients de l'existence de ce problème au sein de l'Église des États-Unis, ne se voilent pas la face et en même temps ne réduisent pas l'Église des États-Unis, enfin l'Église catholique aux États-Unis, à cette question, c'est-à-dire qu'on ne voit pas non plus en chaque prêtre un pédophile en puissance. Donc de ce point de vue-là, à la fois grande conscience du problème, volonté certainement d'y remédier, mais ça je vous laisse y répondre, Daniel, puisque vous connaissez le dossier, et confiance aussi dans les prêtres restés fidèles, et c'est vers cela que tout naturellement un certain nombre de catholiques, au moins ceux qui parce que le catholicisme américain est quand même divisé, il faut pas se leurrer, même au sein du même paroisse on m'a bien désigné ceux qui étaient conservateurs et ceux qui étaient libéraux, enfin au sens américain du terme. Donc il y avait une division qui existe, mais disons que les catholiques conservateurs vont plus spontanément vers des prêtres traditionnels ou dans lesquels ils ont une certaine confiance et sur le plan doctrinal et sur le plan moral. Quant à l'existence des sectes ou des églises entre guillemets protestantes,
les communautés
protestantes, c'est vrai qu'il est un autre point qui est frappant pour un Européen, c'est de voir combien dans un petit village on peut dénombrer le nombre de lieux de culte de différentes communautés protestantes. Je me souviens que dans le nord du Maine, à la frontière canadienne, j'ai pris un journal protestant gratuit, comme il existe des gratuits en France qui sont complètement séculiers. Ben là-bas, vous avez aussi des gratuits chrétiens. Et à la fin de cette publication, il y avait le nombre de confessions présentes dans chacun des petits villages. Et ça allait parfois jusqu'à une trentaine de confessions dans les villes ou dans les villages qui étaient desservis par ce journal. Donc c'est vrai qu'il y a une forte présence très très étendue et très diverse du protestantisme au sens très large. J'ai même rencontré une communauté amish dans le nord du Maine.
Rien à voir avec moi.
Rien à voir avec vous, enfin quoique. Et ce qui fait aussi que les catholiques américains les plus conséquents, eh bien, affirment haut et clair et sans le cacher leur appartenance à l'Église catholique et ont un souci très très missionnaire et très apologétique, hein, l'apologétique qui est un peu laissée pour compte en Europe, et là-bas il y a une grande production de livres, de livrets, de revues d'apologétique pour expliquer ce qu'est le christianisme, ce qu'est le catholicisme, le rôle du pape, comment y compris la Vierge Marie, comment réciter le chapelet, ce qu'est le chapelet, pourquoi il y a le chapelet, enfin, etc. Je me souviens aussi d'avoir vu un livret qui disait, qui expliquait, mais là plutôt à destination des catholiques méfiants, pourquoi la Bible est catholique et n'est pas réservée juste au monde protestant. Donc il y a un certain nombre de voilà, c'est ça, de d'efforts d'apologétique qui est réalisé, sur lequel on pourrait peut-être s'inspirer en France, en prenant un peu conscience que nous sommes aujourd'hui, nous sommes plus dans une société majoritairement catholique, même si la région catholique est soi-disant
la première
en France, mais puisque ce qui permet d'affirmer ça, c'est de dire qu'il y a que ceux qui se déclarent catholiques, ce sont ceux qui vont au moins une fois par mois à la messe, donc ce qui est quand même pas une démarche tout à fait catholique.
Eh bien, écoutez, nous allons. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ça, juste un petit mot. On va passer à Franck. Donc, en début de seconde partie, vers 19h30, on aura une petite communication avec Serge de Becker. Donc là, je rassure comme ça les.
Non, la batteur. On peut rassurer. C'est une bonne nouvelle.
On va
entendre
le début de l'émission.
On va pouvoir rigoler. Voilà. Donc, on écoutera notre ami Serge. Je veux dire quelques mots tout à l'heure.
J'ai un nouveau message.
D'accord, mais je voulais répondre. Oui.
Ah bon, ben, alors vous faites.
Non, mais je vais répondre parce que Philippe Maxence a bien posé le problème. Mais ce dont il faut bien s'apercevoir, c'est que entre catholique américain et catholique français, c'est deux cultures différentes. La culture américaine a toujours été une culture de défense. C'est-à-dire que les catholiques y ont été toujours minoritaires, encore que maintenant ils sont la première dénomination en nombre, hein, puisque c'est dans les dénominations chrétiennes, 68 millions de catholiques, c'est la première. Après viennent les évangéliques, 40 millions, puis les baptistes du Sud, 27, et puis etc., puis on descend dans l'échelle de grenouille. Mais ils ont toujours eu une culture de défense, puisqu'ils étaient minoritaires, et ils étaient non seulement minoritaires, mais ils étaient persécutés. C'est quand même deux siècles de persécution sur les catholiques, faut le savoir. Bon. Alors qu'en France, les catholiques ont toujours une culture de majorité. Parce que la France est catholique depuis Clovis et que Tri et que Tras, ce qui fait bon. Mais aujourd'hui, la réalité est devenue différente. C'est-à-dire que la culture minoritaire catholique aux États-Unis est devenue véritablement la culture majoritaire chez les chrétiens. C'est-à-dire que par exemple, dans le combat pour la défense de la vie, aujourd'hui, on peut dire que la plupart des protestants raisonnables se rangent à l'orthodoxie catholique sur ces questions. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors qu'en France, notre culture majoritaire, qui a été majoritaire, est aujourd'hui dans un contexte doctrinal qui nous est majoritairement hostile. Donc on a ces deux histoires différentes. Alors sur l'affaire des prêtres dits pédophiles, bon, moi je suis toujours un peu troublé par ce côté pédophile, parce que pour moi ça s'apparente quand même la pédophilie, quelque chose qu'il y a avec les petits enfants. Alors qu'en fait, c'est, on peut dire en gros, bon, enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Enfin, sinon, c'est de, on va dire poliment, parce qu'on ne devrait pas encore avoir des problèmes avec l'autorité de tutelle. Mais enfin, c'est de l'éphébophilie. On peut dire que c'est de l'éphébophilie. Bon, alors ça a touché à peu près quoi, disons sur 50 ans, hein, puisque les procès remontent à 50 ans, on a vu des procès qui remontaient même à plus loin, parce qu'il n'y a pas de prescription dans certains états pour ce type de délit. Ça a dû toucher à peu près un millier de prêtres, à peu près un millier de prêtres, de diacres ou d'employés de diocèse, hein, parce que c'est pas que les prêtres, hein, ça peut être des diacres, ça peut être etc. Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les années 40 et le début là 2007, 55 ans, 60 ans, il y a dû avoir 180 000 prêtres aux États-Unis. Bon, alors oui, déjà ça réduit beaucoup le côté criminogène, hein, du sacerdoce catholique aux États-Unis. Et il faut savoir qu'en matière de crimes pédophiles entre guillemets, il y en a 100 fois plus. 100 fois plus dans l'école publique américaine que dans l'église catholique. Bon, il n'empêche que et tous les prêtres qui ont été incriminés ne sont pas tous coupables des délits dont ils ont été accusés. Hein, parce que je crois qu'il y a une espèce de mouvement d'entraînement. Hein, il y a un mouvement d'entraînement parce que la vache à lait, elle est bonne à traire tant qu'il y a du lait. Et l'église catholique est devenue la vache à lait de beaucoup d'avocats et de beaucoup de gens de peu de scrupules. Ce qui ne veut pas dire que je ne nie pas qu'il y ait là une réalité de ces abominations. Mais aujourd'hui, sur un grand nombre d'entre elles, tous les spécialistes ont des doutes. Hein, d'abord parce que les prêtres mis en accusation sont morts. Mais comme ils étaient prêtres du diocèse, on attaque le diocèse. Pour des événements qui se seraient passés il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. On avait même des cas, un cas encore plus extraordinaire, un cas de 70 ans. Le procès a été jugé l'année dernière, a été gagné par la personne qui avait 85 ans, enfin, était 83 ans, qui était un vieillard. Il s'est dit, tiens, va terminer ma retraite tranquillement, boum, il a fait un procès à l'archidiocèse de Los Angeles, il a gagné son procès. Ça a coûté, cette petite plaisanterie a coûté quand même 2 milliards et 100 millions de dollars, plus de 2 milliards et 100 millions de dollars à l'Église catholique américaine. 4-5 diocèses sont en faillite à cause de ça, parce qu'on ne peut pas régler tout le monde. Alors, il y a des réalités qui sont effectivement pathétiques, dramatiques, écœurantes, mais il y a aussi, l'Église catholique est devenue une vache à lait. Je le dis, je le soutiens, le cardinal Tarcisio Bertone partage mon sentiment, merci éminent, je suis très content avec le secrétaire d'État, et beaucoup d'autres le disent. Hein. Donc il faut toujours réduire les choses. Et ça n'a pas eu d'influence. Alors pourquoi ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un millier de prêtres ou un peu moins qui ont été dans... Alors il faut vraiment, là c'est des problèmes théologiques, et on aurait pu poser la question à nos jeunes prêtres, là, qui sont des garçons extraordinaires, et ils ont des réponses là-dessus. On en a parlé un peu au téléphone avec eux quand je les ai déjà interviewés là-dessus. En fin de compte, tous ces prêtres qui ont soit quitté le sacerdoce, soit qui se sont dévergondés dans leur sacerdoce, ce sont des hommes qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, c'est pas une personne, c'est un concept, c'est une idée, quoi. Voilà. Et je crois qu'une grande partie de la crise de l'Église vient de ça. Il y a du fait que beaucoup de prêtres ont une relation de Christ qui n'est pas une relation de personne à personne, mais qui est une relation un peu, je dirais, idéologique. Le Christ, c'est le Christ des Écritures. C'est-à-dire que tout ça est très très cérébral et pas très spirituel. Voilà ce que je pourrais dire. Et ceci induit des comportements qui sont des comportements que le bon sens éclairé par la grâce devrait empêcher, logiquement. Enfin, toute logique. Voilà. J'ai fait un long en fil.
Non, c'était très bien.
Merci, Victoria. J'ai un très bon public ce soir, mais je la paye cher. Hein.
Un autre, arrêtez de parler de sous.
Ah ben, on parle de ce qu'on n'a pas. Hein.
Justement.
Tiens, à propos d'ailleurs de sous, j'aurais quand même rappelé aux auditeurs du Courtoisie que cette radio qu'ils écoutent, j'espère pour beaucoup, avec intérêt et bonheur ce soir, est une radio qui ne vit que des cotisations et des dons de ses auditeurs. Hein. Pas de subvention, pas de publicité. Hein. Vous voyez, on a eu les Américains au téléphone. On n'aura pas un sou d'eux, hein. Ça c'est normal, c'est plutôt nous qu'on va leur en donner d'ailleurs, c'est curé. Alors donc ça veut dire que n'oubliez pas de renouveler vos cotisations, les dons sont toujours les bienvenus, surtout pour les auditeurs qui nous écoutent un petit peu en maraude, on écoute comme ça Radio Courtoisie, puis voilà, tant qu'on écoute, on paye pas, hein, c'est l'histoire du belge, hein, tant que je paye et que ça tombe du guichet du DAB, là, c'est bon, enfin, voilà, il y a un moment où il n'y a plus. Voilà. Alors il faut quand même rappeler aux auditeurs que c'est un devoir civique, c'est un devoir patriotique. Presque un devoir catholique pour nos émissions à tonalité catholique de contribuer au financement de Radio Courtoisie pour qu'elle se maintienne et surtout qu'elle se développe.
Oui, Victoria. Très bien, maintenant je suis à jour de mes cotisations, donc je peux vous écouter. Alors, attention, il va pleuvoir des méchancetés. Ah. Pourquoi nous faites-vous un portrait idyllique de l'Amérique qui ne connaîtrait pas la criminalité? C'est une caricature. Comment expliquez-vous que l'on voit de plus en plus de résidences destinées à des notables qui ressemblent étrangement à des ghettos, avec enceintes bétonnées ou grillagées, contre les intrus, une brigade de vigiles protégeant les résidents? Pour entrer et circuler dans ces résidences privilégiées, il faut montrer patte blanche, ce qui contredit tout à fait vos propos sur la parfaite sécurité américaine. Pourquoi vous croyez-vous autorisé à tromper les auditeurs?
Alors, Philippe Maxence, répondez, parce que c'est une question qui est vraie et fausse en même temps.
C'est une question qui révèle, enfin, je suis désolé pour ce que je vais dire à cet auditeur, mais qu'il n'a pas écouté, tout simplement. Alors, je redis, je répète, et j'espère qu'il m'écoute, puisqu'il a posé une question, je ne parle pas des États-Unis en général, je parle de ce que j'ai vu, c'est-à-dire, petite partie des États-Unis, que je ne prétends pas faire une présentation systématique ni un résumé d'une étude sur ce pays dont la complexité, et là-dessus il a tout à fait raison, est certainement beaucoup plus large que ce que je peux en dire. Mais en revanche, je ne peux pas dire le contraire de ce que j'ai vu, je ne peux pas dire le contraire de ce que j'ai vécu. À mon grand étonnement, j'ai vécu 15 jours dans des maisons, j'ai circulé dans des voitures, et je n'ai jamais vu ces maisons fermées, ni de jour, ni de nuit, je n'ai jamais vu ces voitures fermées, voilà. Alors ça concerne peut-être que cette partie des États-Unis. Je le crois d'ailleurs. Je ne crois pas que ça soit vrai ni pour New York, ni pour Chicago, ni pour Boston, ni pour Portland, qui était à 4 heures de route de l'endroit où j'étais, ni pour Augusta. Mais là où j'étais, c'était vrai. Donc qu'il le veuille, qu'il le croit ou qu'il le croit pas, à l'ailleurs, peu m'importe. Je suis pas là pour le convaincre, je suis pas là pour lui faire croire, comme dirait Saint-Bernadette, je suis là juste là pour lui et pour lui dire, c'est une réalité que j'ai vue. C'est pas la réalité de tous les États-Unis, c'est la réalité d'une toute petite partie des États-Unis, comme je n'ai vu que deux policiers. Je peux pas inventer ce que je n'ai pas vu. Je n'ai vu que cela. Bon, voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça ne veut pas dire que qu'il n'y a pas de criminalité. Ça veut dire que je n'ai vu que deux policiers. Voilà, c'est tout.
Autre message auditeur, donc sur Radio Courtoisie, et, voilà, etc., avec Philippe Maxence ce soir.
Mais celui-là, c'est pour le directeur de l'Homme Nouveau.
Ah, bah, on va parler tout de suite.
C'est pas moi, ça tombe bien.
C'est un abonné à l'Homme Nouveau qui s'adresse à vous. Je ne comprends pas la nouvelle grille télé qui ne présente que la moitié des programmes. Pouvez-vous m'expliquer? Peut-on revenir à l'ancien régime? Voilà.
Eh bien voilà, ben voilà. Alors cet auditeur, oui, c'est un monsieur, bonsoir monsieur, nous fait une transition.
Alors peut-être avant de m'en fourner dans cette transition pour parler de nouveau, je voudrais juste dire encore deux petits mots sur les États-Unis et une face sombre et une face qui me semble plus positive. La face sombre, c'est que vous parliez tout à l'heure de retraite à propos d'une personne qui a 85 ans a poursuivi
l'Église
catholique dans une affaire de pédophilie. C'est vrai que le régime de retraite aux États-Unis n'est pas celui que nous connaissons en France, même si nous sommes en train de reculer l'âge de la retraite, et que j'ai rencontré, ça m'a frappé, beaucoup de personnes qui ont atteint un âge où en France on part à la retraite et qui continuaient de travailler parce que ils n'avaient pas suffisamment pour vivre malgré le fait qu'ils aient atteint cet âge et qu'ils aient fini le grand de leur carrière professionnelle. Donc beaucoup ont des petits boulots, je crois qu'on peut pas appeler ça autrement, pour agrandir leurs revenus, et ne jouissent pas comme c'est encore le cas en France. Je pense que ça va l'être de moins en moins, et d'ailleurs on va se rapprocher du modèle américain. D'accord. Et ont des petits boulots pour bénéficier d'une vie à peu près décente. Dans ce même ordre d'idée, c'est vrai qu'il n'y a pas de système d'assurance sociale et que on voit des enfants qui ont qui ne bénéficient pas d'un suivi médical comme nous avons en France. Je vais donner un simple exemple qui va faire rire, mais j'ai vu beaucoup de dentitions d'enfants en très mauvais état. Pas en mauvais état, en très mauvais état. Et quand je compare avec le suivi médical qu'ont mes enfants de ce point de vue-là, ou d'autres enfants français, on voit très clairement et très nettement la différence entre les deux systèmes. Donc ça, c'était la face un peu sombre. Ça permet aussi de dire qu'il ne s'agit pas ici d'encenser les États-Unis. Ce qui m'a marqué, et qui me paraît beaucoup plus positif pour ma part, mais tout le monde ne sera pas de mon avis de ce point de vue-là, c'est le grand nombre de familles qui ont recours à ce qu'on appelle là-bas le homeschooling, qui est vraiment une institution tout à fait, je vais presque dire naturelle, même si elle est née. Donc le homeschooling, c'est l'école à la maison, hein. C'est le fait que ce sont les parents qui prennent en charge l'instruction de l'enfant à l'aide de cours par correspondance, à travers la vie quotidienne, en transmettant les connaissances de base. Et j'ai rencontré énormément de familles parmi les catholiques avec lesquels j'ai vécu, qui tout naturellement faisaient donc l'école à la maison, tout naturellement se retrouvaient entre eux pour se soutenir. Donc justement étaient bien conscients de la difficulté que ça pouvait poser au niveau de la sociabilisation des enfants, et donc était tout à fait conscient de la nécessité d'offrir à leurs enfants la possibilité de vivre en société. Donc c'est pas du tout un repliement, mais en même temps une grande revendication sur cette liberté pour les parents de choisir leur modèle d'éducation, lequel modèle d'éducation comprend effectivement ce qu'on peut appeler l'instruction scolaire.
Avec des résultats qui sont très appréciables, je crois qu'on a vu ça.
Oui,
l'année dernière, que celui qui est sorti major de West Point,
c'est-à-dire le Saint-Cyr des États-Unis,
était un homeschooling, un garçon qui a connu homeschooling toute sa vie, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas mal.
Et puis il y a énormément d'autres cas qui pourraient être montés être présentés comme exemple. Enfin voilà, donc c'est une réalité.
Philippe Maxence, interpellé sur
l'homme nouveau et donc plus exactement
la nouvelle grille télévision.
La nouvelle grille de télévision qui vient de sortir dans le nouveau numéro. Alors peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'homme nouveau, juste un mot pour leur dire qu'effectivement l'homme nouveau, qui est un bimensuel catholique, paraît plus exactement tous les 15 jours, avec donc d'une part un journal qui s'appelle l'homme nouveau, plus un supplément culturel qui comprend des recensions de livres, des articles de fond d'un point de vue culturel, des pages cinéma et aussi donc des programmes de télévision sur 15 jours. Jusqu'ici, nous avions décidé de présenter l'intégralité des chaînes de télévision, enfin des programmes des chaînes de télévision traditionnelles, enfin ce que j'appelle traditionnel là, c'est à savoir les chaînes comme TF1, France 2, France 3, Arte ou M6, en nous contentant de ces chaînes-là, mais on présentait l'intégralité de leurs programmes. Lesquels programmes ne sont pas toujours très intéressants, le sont même rarement. Donc nous avons opté pour une nouvelle grille qui présente les programmes du soir et fait un choix plus sélectif sur un plus grand nombre de chaînes, puisque maintenant vous savez que si vous avez le câble ou si vous avez par votre fournisseur internet la télévision, il y a plus d'une centaine de chaînes qui vous est proposée. Donc plutôt que proposer un programme globalement inintéressant mais complet, on a préféré agrandir notre panel de chaînes et d'aller chercher ce qui pouvait être intéressant et de le faire ressortir dans notre programme télévisé. Alors effectivement, pour les lecteurs habitués à l'ancienne grille, comme dans tout changement journalistique, dans tout changement dans une publication, il y a la surprise, les habitudes sont un peu bouleversées, il y a des nouvelles couleurs, il y a une nouvelle présentation, il y a une nouvelle façon de voir. Je crois qu'il faut. Je demande juste à l'auditeur ou l'auditrice qui a posé cette question, qui est tout à fait légitime d'ailleurs, de prendre un peu patience de s'approprier, de s'habituer avec ce programme de télévision, et elle verra que, je pense qu'elle verra que ça répond à un souci que nous avons tous à partir du moment où nous sommes un peu difficiles, et qu'il ne s'agit pas simplement d'ingurgiter des émissions parce que la télévision nous propose que nous pouvons juste faire notre marché et chercher les émissions, les films, éventuellement les séries intéressantes et évacuer tout le reste.
On n'a même pas encore donné l'adresse de.
Non, mais on va.
Il faut le faire.
On va le faire.
Il faut le faire. Alors l'adresse de l'homme nouveau, c'est 10-2x5 rue Rosenwald, Rosenwald, 75-015 Paris. Il est possible de téléphoner pour se faire envoyer par exemple un spécimen.
Bien sûr, un ou plusieurs spécimens. Surtout ne pas hésiter.
01-53-68-99-77. 01-53-68-99-77. Alors voilà, oui. Je pense que l'auditeur, à défaut d'être rassuré, aura été quand même répondu à sa question. Bon, c'est vrai que toute formule nouvelle trouble.
Oui, mais ça c'est normal. Je crois qu'il faut. On est tous les mêmes. Hein. On réagit exactement de la même façon face à un changement dans une publication avec laquelle on avait des habitudes, il y a des habitudes de lecture, il est parfois bon de les bouleverser un tout petit peu, surtout si, comme je le pense, du moins je l'espère, c'est pour un mieux.
C'est pour le mieux. Alors parlez-nous un peu de ce numéro. Alors,
excusez-moi, vous pouvez me redire l'adresse de votre journal.
10x5 rue Rosenwald, Rosenwald, 75015, Paris. Et même si vous êtes très gentil, je peux vous redire le numéro de téléphone, Victoria. Mais c'est uniquement pour vous, parce que personne ne vous écoute.
Non, mais je l'ai noté, mais...
Ah, ben alors c'est bien, vous pouvez me dire.
01 53 68 99 77.
C'est parfait, c'est le bon numéro.
Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter, de toute façon, et qui ont l'accès à Internet, il y a un site Internet, il suffit de taper homme nouveau. .fr précédé des fameux 3W et on tombe sur un site qui n'est pas tout à fait à jour mais qui au moins donne bien toutes les coordonnées qui sont elles justes.
Il y a des articles, il y a plein de choses sur ce site. Victoria, vous avez une chose à dire?
Non.
Vous préférez garder le silence, même si je vous torture?
Je peux à la rigueur vous dire des annonces.
Non, ce sera en seconde partie, ça. Ce sera pour la deuxième partie de l'émission. Il y aura de très, très intéressantes annonces en seconde partie. Ne quittez pas. On va continuer à vous parler. Un petit mot sur le dernier numéro, donc 1403. Daté du 1er septembre de l'homme nouveau, parce que c'est un petit peu antidaté, hein, c'est ça, hein, c'est fait pour d'ailleurs en principe.
C'est-à-dire qu'il nous arrive un tout petit peu plus tôt, mais pour que nos lecteurs l'aient bien le samedi, puisque notre grille de programme télévisé débute un samedi pour 15 jours, donc tous les 15 jours. Avant le samedi, l'homme nouveau, normalement, si la poste fait bien son travail, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, l'homme nouveau arrive dans les boîtes aux lettres et est disponible pour ses lecteurs. Donc là, après,
visiblement, le lecteur qui vous interpelle avait bien reçu
ce numéro avec cette nouvelle grille. Donc là, après les mois de juillet et d'août, nous avons adopté une formule plus légère parce que nous sommes une petite équipe, mais nous avons publié donc juste notre supplément avec une formule plus estivale, auquel vous avez largement contribué, Daniel. Nous avons repris donc la publication normale avec un numéro dont le dossier est principalement consacré, puisque nous n'avions pas eu le temps d'en traiter avant, au motu proprio summum pontificarum, pontificum. De sa sainteté Benoît XVI consacré à la liturgie, à la fois avec un témoignage de l'abbé Chanu, enfin une analyse de l'abbé Chanu, puisque vous savez que ce motu proprio qui libère la faculté, enfin qui étend la faculté de célébrer selon ce qu'on appelle désormais la forme extraordinaire du rite latin, c'est-à-dire, pour faire beaucoup plus simple, le rite dit de Saint Pie V, est d'abord destiné à ceux qui jusqu'ici ne le pratiquaient pas, qu'ils soient fidèles ou prêtres, donc pas d'abord aux fraternités, aux instituts, aux monastères qui avaient la possibilité de célébrer selon cette forme liturgique, mais à tous ceux qui le souhaitaient mais qui ne le pouvaient pas. Et donc nous avons demandé à l'abbé Chanu, qui était curé de paroisse, donc qui est prêtre diocésain, et donc qui fait partie en quelque sorte de ceux qui étaient destinataires de ce texte pontifical, et bien de nous dire ce qu'il représentait pour lui en tant que curé, ce qu'il représentait pour lui en tant que prêtre, et de le présenter dans une perspective générale, donc une analyse très intéressante qui ne mâche pas ses mots, qui montre bien toute la crise qui a précédé la décision du pape pour étendre donc cette faculté de célébrer selon le rite dit de Saint Pie V, qui montre aussi l'importance que ça représente pour la perspective qu'a adoptée Benoît XVI d'une réforme de la réforme, c'est-à-dire une correction à terme du rite, enfin de ce qu'on appelle la forme ordinaire, et elle est parfois très ordinaire. Là aussi, j'ai pu m'en apercevoir aux États-Unis. Elle est parfois très 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 ordinaire et beaucoup trop ordinaire. C'est un peu un jeu de mots, mais malheureusement, c'est aussi une réalité. On voit qu'on a complètement perdu de vue les règles liturgiques, on a oublié même ce qu'était l'essence même de la liturgie. Ce dossier comporte aussi une enquête qui m'a paru très intéressante auprès des séminaires français. Et encore une fois, non pas des séminaires où on forme des prêtres pour célébrer cette liturgie ancienne, mais des séminaires où on forme les prêtres, les futurs prêtres diocésains, pour savoir s'ils avaient intégré dans leur programme de formation pour les années qui viennent une formation à la célébration de la forme extraordinaire du rite romain, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un rite qu'on peut célébrer comme ça et qu'on improvise ou qu'on imagine. Il faut suivre, il est très rigoureux, et de cette rigueur découlent ses fruits d'ailleurs, ses fruits spirituels. Cette enquête est très intéressante, j'invite les lecteurs à la lire, ils rencontreront quelques surprises, je n'en dis pas plus, parce que ça mérite d'être lu. Également un point important qui faisait, qui pose un véritable problème, me semble-t-il. Vous voyez, on n'a pas agité la langue de bois, ou plus exactement la langue de buis, hein, même si L'Homme Nouveau est un journal qui se veut résolument fidèle au siège de Saint-Pierre, qui a même une renommée d'être papiste.
Et qui distribue d'ailleurs le Salvatore Romano,
et qui effectivement diffuse le journal du pape en France. Nous n'avons pas hésité à poser les vraies questions. Le texte du Saint-Père fait référence au fait qu'on pourra célébrer cette forme extraordinaire pour un groupe stable dans les paroisses. Groupe stable, qu'entend-on par cette définition par cette affirmation, plutôt que par cette définition? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition, justement, mais qu'il y a une affirmation. Un groupe stable, qu'est-ce que c'est? À partir de quand est-on un groupe stable? Ou pourquoi est-on un groupe stable? Et il y a un article très intéressant qui a demandé un énorme travail, parce qu'il a fallu se référer non pas à la traduction française qui est fautive, il n'y a pas encore de traduction officielle, donc non pas à la traduction française qui a été donnée, ni même aux traductions anglo-saxonnes qui ont été faites et qui apparemment sont tout aussi fautives, mais au texte latin, qui de toute façon dans l'Église, le seul texte qui fait foi. Et là, on voit que
c'est
pas du tout aussi simple que ça. Là encore, je donne pas la réponse qu'apporte cet article. Je renvoie les lecteurs qui voudraient découvrir, que les auditeurs qui connaissent pas L'Homme Nouveau, eh bien,
demandent
cet exemplaire, même s'ils ne s'abonnent pas par la suite, ils auront au moins quelques réponses autour de ce sujet. J'en profite pour dire que, puisque nous avons entendu deux prêtres de la fraternité Saint-Pierre s'exprimer, que pendant en quelque sorte de ce dossier sur le motu proprio, nous avons aussi dans le prochain numéro que nous sommes en train de préparer, prévu un dossier sur la fraternité Saint-Pierre, qui est l'une des fraternités qui célèbre selon le rite, selon la forme extraordinaire du rite romain pour permettre de mieux connaître cette fraternité.
Merci Philippe Maxence.
Pardon d'avoir été aussi long.
Notre première partie s'achève maintenant, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Eh bien, rebonsoir à nos amis auditeurs qui nous font l'amitié d'être avec nous pour cette seconde partie du Libre Journal de Serge Bekecht, dirigé par ce soir par Daniel Amichet, l'instance de Victoria. Et cette seconde partie, nous allons, nous recevons, déjà sont arrivés dans le studio, Henri-Paul Falagna, qui est le directeur du collectif de solidarité aux enfants martyrs de Beslan, qui était déjà venu nous voir il y a quelques, mois, hein, déjà vous étiez venu. Je vous entends, c'est pas grave, alors moi je lui ai été venu. Également, nous avons dans le studio, elle vient juste d'arriver. Asseyez-vous, je vous en prie, madame. Donc, Anne Almiras, elle vient de loin, là, c'est pour ça, alors c'est compliqué, qui est mère au foyer, mais qui est surtout invitée ce soir en qualité de présidente de l'association Enfance et Sainteté. Et elle est accompagnée ici par une autre mère au foyer, Ségolène de Pontac, qui nous fait l'amitié de venir. Je crois que c'est la première fois que vous venez, Ségolène.
Oui.
Et vous, Anne aussi, c'est votre première fois?
Oui, c'est la première fois à Radio Courtois.
À Radio, mais vous êtes déjà passé sur des radios, vous êtes
quelques-unes.
Bon voilà, donc vous êtes une professionnelle de la radio, il n'y a rien à craindre.
Ah,
voilà.
Tout à fait.
Et puis nous aurons, entre Henri-Paul Falagna et Mme Almiras et de Pontac, nous aurons notre amie Jeanne Smith pour parler d'un sujet très intéressant qui est celui du film fort controversé, qui s'appelle 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Alors, avant de donner la parole à Henri-Paul Falagna, je crois que nous avons quelqu'un au téléphone, mais je ne sais pas, je regarde désespérément la technique. Est-ce que nous avons au téléphone la personne que nous attendions? Non, nous ne l'avons pas encore. Bon, on l'aura peut-être dans le cours de l'émission. Moi, je l'espère. Henri-Paul Falagna, bonsoir d'abord. Ah, alors attendez, non, je vous coupe la parole parce que voilà, nous avons, vous pouvez mettre, chausser vos casques. Voilà, c'est des casques comme ça, vous pouvez les chausser sur vos oreilles, c'est dommage. Nous avons là deux femmes, je ne parle pas Victoria qui est au-dessus de tout, c'est une déesse, mais enfin nous avons deux jeunes femmes absolument ravissantes. Cher Falagna, excusez-moi, bon. Mais voilà, alors évidemment, elles sont moins jolies avec les casques. Alors voilà, est-ce que nous avons au téléphone la personne que nous attendions?
Ça que vous attendiez.
Eh ben oui, c'est exactement ça qu'attendent, et beaucoup d'auditeurs attendent, parce que des messages, je vais autant vous dire, mon bon Serge, on a beau dire des tas de choses, les gens envoient des messages. Alors comment allez-vous? C'est la question que tous nos amis auditeurs se posent.
C'est une question qui montre à quel point vous savez par moment être pertinent et original.
C'est pour ça que je fais de la radio, mon cher Serge.
Mais si vous avez une réponse, vous êtes gentil de la faxer d'urgence, parce que...
Vous devriez savoir vous-même.
Je ne le sais pas très bien.
Voilà, bah écoutez, on est, vous savez, on ne va pas abuser, bien sûr, de votre temps.
Non, non, ça me fait plaisir de dire bonjour, puis de vous raconter un peu, si vous avez 2 minutes.
Je vous rappelle, mon chercheur, que vous êtes chez vous, c'est moi je suis le
grand. Oui, bah,
je suis le grand.
Vous, la puissance invitante. Que vous avez un bazar dans la salle.
Allez savoir. Allez savoir.
Je vais vous aider.
Enfin, ça nous fait très plaisir de vous entendre. Et croyez-moi, Serge, les quelques mots que vous pourrez nous dire ce soir vont aller tout à fait droit au cœur des auditeurs, parce que vous avez quand même mobilisé autour de vous vous pouvez pas le savoir, mais vous devez vous l'imaginer quand même, hein, mais un grand mouvement de d'amitié, de prière surtout, voilà, qui est la chose la plus importante.
Je vous aime.
Ah, ma petite Victoria.
Ouais, même Victoria. Vous vous rendez compte? Même
pas
Victoria.
Vraiment.
Après tout le mal qu'elle vous a fait.
Oh. Alors, qui avez-vous comme invité?
Eh bien, ce soir, comme en première partie, j'avais Philippe Maxence, que vous n'ignorez pas, un très bon camarade à moi.
Pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration, mais... Nous ne bossons pas du tout dans la même catégorie.
Et puis, nous avions également donc deux jeunes prêtres que nous avons eus des États-Unis. Alors, ça va peut-être pas arranger les finances de Radio Courtoisie, mais enfin...
Vous avez reçu des prêtres?
Oui, deux, ça c'est rare chez moi. Hein. Deux jeunes prêtres français qui sont en poste aux États-Unis. C'est pas mal quand même, hein. Ça nous renvoie à la grande époque de la mission française des 17e et 18e siècles. Et du 19e aussi, d'ailleurs. Et puis là, nous avons en seconde partie d'émission Henri-Paul Falavigna. Voilà, que vous connaissez bien, du comité. C'était le collectif Solidarité aux enfants martyrs de Beslan.
Et qui lui transmet une meilleure santé.
Voilà, il vous entend, en même temps que vous lui parlez, il vous entend. Et puis alors, deux charmantes dames, Anne Almiras et Ségolène de Ponta, qui viennent nous parler d'une très belle association qui s'appelle Enfance et Sainteté. Et puis nous aurons Jeanne Smith, en vedette américaine, mais par téléphone.
Je vous la saluerai alors.
Voilà, ça vous plaît?
Oh, je n'ai pas oublié de l'écouter, donc certainement, vous savez. Je suis trop loin, il n'y a pas encore ça déjà.
Alors, avez-vous une petite anecdote à nous raconter pour nos auditeurs?
Ça m'a valu cet accident, si j'ose dire. M'a valu de faire des expériences extrêmement intéressantes. Là, maintenant, je suis en train de faire l'expérience de la tortue.
C'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire que je suis sur le dos et je ne peux absolument pas bouger.
Ah, mon Dieu.
Parce que dès que je fais un mouvement pour me retourner, pour me lever, c'est dantesque, ou je ne sais pas comment dire, mais enfin bon, ça ne me plaît pas du tout. J'ai fait l'expérience des urgences à l'hôpital, mais ça, je commençais à le connaître. C'est intéressant, avec l'interne qui m'a regardé, qui disait à mes fils, s'il continue à saigner comme ça, on va pas le récupérer.
C'est encourageant pour les enfants.
J'avais envie de lui dire,
ben, faites quelque chose.
Démerdez-vous. Ben non, il n'avait pas l'air très pressé. Il fallait attendre le chef de service.
Ben oui.
C'est arrivé, je suis pas, à 10h du matin.
Et frais, comme une fleur bien rasée, mais bien.
Ah ouais, ouais.
Bien, bien.
Enfin, il n'est pas obligé non plus d'être débraillé et sale. Et...
Non, mais quand c'est une urgence, on tolère. Vous voyez, on tolère, quoi. Voilà.
Ouais. Alors, j'ai vu aussi ce que c'est qu'un hôpital français, mais. Comme on les aime. Non, non, mais c'est vrai, hein, là, je blague pas. L'hôpital de Perpignan, sur le plan de l'hôtel hospitalier, c'est pas génial, parce que c'est un vieil hôpital, mais alors, le personnel, ça, si quelqu'un connaît quelqu'un à l'hôpital de Perpignan qui a un poste quelconque, important ou pas important,
décisionnaire, quoi.
Il faut qu'il lui transmette vraiment combien j'ai été, mais admiratif, bouleversé, il n'y a pas de mots pour dire à quel point ces jeunes filles sont gentilles. Des infirmières chefs, les infirmières stagiaires,
ouais.
Adorables. Bon, elles sont toutes plus ravissantes les unes que les autres.
Oui, oui. Ça nous aide, nous autres.
Je ne rien.
Je connais ça aussi.
C'est bon pour le moral. Et puis, elles sont gentilles, elles sont attentives, elles sont douces, elles sont... enfin, il n'y a pas de... On peut... Énumérer toutes les qualités d'une infirmière, elles les ont.
Oui.
Après, qu'est-ce que j'ai fait comme expérience? J'ai fait l'expérience de la méditation.
Pas de la gastronomie, en tout cas.
Non, là, c'est fini pour un moment, je crois. Alors, je prie la bande des hystériques du gnosticisme d'éteindre leur radio pendant quelques
minutes. Ils ont déjà éteint depuis longtemps.
Je me suis mis un soir où ça allait vraiment très mal, j'ai cru que j'allais y rester. Je me suis mis sur la terrasse, sous la pluie, on m'étouffait dans les couvertures, et regardant la mer, oui, on me livre toujours, tu chériras la mer.
Oui, oui, oui.
Et j'ai commencé à penser aux fins derrière, mais surtout au Big Boss.
Oui.
Alors j'ai élaboré une théorie dont j'étais extrêmement fier. En gros, si vous voulez, c'est de dire que c'est blasphématoire de dire que Dieu est bon, parce que Dieu est la bonté, il n'est pas bon, il n'est pas juste, il est la justice. Et alors le matin, j'appelle...
Ça, c'est pas très gnostique, hein.
Je sais pas, en tout cas, j'appelle François Plantet pour lui dire, bon, pour parler de choses et d'autres, et je lui dis, tiens, cette nuit, j'ai fait une expérience... On disait dans le temps, curieux de l'expérience dans un rapide. Et je lui dis ça. Il me dit oui, c'est ce qu'écrivait Frère Eckhart.
Ah ben voilà, ça y est, vous replongez, six coups de canis, coup de vertiture, ad vomitum se hum. Vous ah ben, y retournez, hein, vous voilà. Y retournez hein, dans votre bouge. Hein.
Exactement. Ah, j'ai fait aussi la connaissance, enfin l'expérience de... l'absolue connerie administrative.
Ça c'est pas nouveau, mais...
Non, mais moi, je crois toujours faire des expériences nouvelles, mais en fait, il y a 12 milliards 700 millions de personnes qui les ont faites avant moi. Y compris l'expérience finale. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer, parce que, de toute façon, on y passe tous, à un moment ou à un autre. Mais là, j'ai vu ce que c'était. Enfin, c'est renversant.
C'est effrayant.
Voilà. Alors autrement, je fais l'expérience de la beauté, parce qu'ici le village est merveilleux, le temps est beau, point trop, c'est-à-dire qu'il ne fait pas trop chaud, il y a un petit zéphyr d'une douceur extrême, qui est comme un coup de chapeau qu'on tire aux gens qui vont rentrer chez eux. Et puis j'ai fait l'expérience de la boule de riz aussi.
Ah.
Ouais.
Vous nous expliquez ça quand même. Voilà.
C'est-à-dire que comme je ne peux rien supporter, je me me borne à bouffer du riz. Et sans sel en plus, ce qui est vraiment, je vous le recommande. Hein. Et bien, chose extraordinaire, on s'y fait très bien. Et voilà, donc je peux maintenant me retirer dans la province du Yunnan ou je sais pas où.
Oh bah même dans les Bouches-du-Rhône, parce qu'il y a du riz là-bas aussi. Hein, donc il y a, ou dans la plaine du Pô, c'est très beau aussi. Si vous parlez d'Italie, c'est parfait.
Il faut aussi dire quand même que dans la plaine du Rhône, il y a, c'est connu pour être le refuge de la Camargue.
Oui, c'est cela.
J'ai pas très envie de
l'avoir. Ah oui, oh, bah oui, bah tout aussi, parce que vous faites des rapprochements linguistiques qui n'ont pas lieu d'être, ils n'ont pas lieu d'être. Non, ceci dit, que ce que vous dites là, c'est intéressant quand même, le fait qu'on s'habitue à beaucoup de choses, mais vous voyez, quand on regarde ce que mangent les moines dans les, je sais pas, par exemple, les moines, les cisterciens, enfin, les trous, comment est-ce qu'on peut vivre en mangeant pas de viande, pas de trucs? Eh ben, on vit. Eh ben, on vit, voilà. Et nous, on mange trop, de toute façon. Voilà, c'est clair.
Oh, j'étais un morphin, mais quand même un formuleur.
Oui.
Alors, je signale d'ailleurs aux braves gens qui ont conclu du fait que j'avais une cirrhose, que c'était une cirrhose alcoolique, qui est très bien de regarder leur dictionnaire médical, ils verraient qu'il y a 36 formes de cirrhose. Cirrhose médicamenteuse, etc. Et bon, simplement, ce qui s'est passé, c'est que, il y a 15 ans, quand j'ai eu ma maladie de Hodgkin, pas la mienne, c'était pas la mienne d'ailleurs, puisque j'en suis débarrassé le plus vite possible, on m'a fait une endoscopie qui m'a contaminé avec le virus de l'hépatite B. Et puis le Toubib m'a dit ça un mois plus tard. Il m'a dit, vous savez, on a eu un problème. Et alors j'ai dit, qu'est-ce que ça peut donner? Bon, il m'a dit, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il faut attendre. 15 ans, c'est long, hein?
Oui.
En attendant Madeleine.
Oui, c'est long.
Voilà, mais ça finit par arriver. Et à propos d'on ne peut rien faire, je voudrais dire une dernière chose, c'est pas de la publicité, mais à l'hôpital, je dis, j'ai eu un... Je raconte ma vie, mais après tout.
Bah, écoutez, Serge, à la radio, et puis tout le monde vous écoute, puis on est là pour raconter notre vie, hein, donc...
À l'hôpital, me relâchant, le Toubib me dit, vous savez, vous avez un niveau de plaquettes qui est effrayant, parce que vous avez 3000 plaquettes. Le chiffre normal, c'est 150 000.
Ça fait une sacrée différence. Hein.
Ouais, comme vous dites.
Même en ancien front, hein.
Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit rien. Rien, il faut attendre. Ça remonte. Alors, la solution, ça serait d'enlever la rate. Mais si on enlève la rate, étant donné que vous n'avez pas de plaquettes, il va y avoir une hémorragie massive et vous êtes cuit. Voilà, bon, enfin, j'ai dit, bon, ben, très bien, merci du coup de l'enseignement. J'ai arrivé à la maison et j'ai appelé Madame Belchowski. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez quelque chose contre les... Enfin, pour remonter les plaquettes. Elle m'a dit, mais bien sûr, je vous l'envoie immédiatement. Et deux jours après, alors j'étais tout le temps en état d'hémorragie... légère, mais je suis intense, que si j'ose dire, on me passera la trivialité des détails. J'ai pris la petite poudre qui se met sous la langue. En deux jours, c'était terminé.
C'est incroyable.
Alors, si vous voulez, j'en tire la conclusion que les médecins sont pleins de bonne volonté, mais je préférerais qu'ils soient pleins d'ouverture d'esprit et de connaissance. Alors, j'ai un exemple ce matin, avec mon limbago qui me transforme en tortue. Je dis à Daniel, que tu sois gentil, va m'acheter un produit, parce que je peux pas prendre d'aspirine naturellement, je peux pas prendre d'aspégique, je peux pas prendre des céralgans. Toutes ces marques étant citées pour information.
Oui, bien sûr.
Donc, essaye de trouver quelque chose, va voir le pharmacien, mais normal un produit qui n'a pas d'effet sur le foie. Bon, elle y va et elle dit au pharmacien, est-ce que vous avez un antalgique qui n'a pas d'effet sur le foie? Oh, il dit, il y a un truc formidable, c'est les suppositoires de, je sais pas quoi, enfin peu importe, qui n'ont aucun effet sur le foie, parce que comme ils sont des suppositoires, ils ne rentrent pas en contact avec le foie. Elle revient avec la boîte de médicaments, et elle me dit, tiens, regarde, tu as vérifié? Elle me dit, bien sûr. Et ça me paraît bizarre parce que mon excellent camarade, le docteur Jean-Paul, vient de m'expliquer que tout ce qui est suppositoire et autres, les Américains appellent ça la French Medication, parce que ça n'est pratiqué qu'en France, que ça les fait hurler. Vous savez que c'est l'histoire des cavaliers de Kessel.
Allons-y.
Ah ben le type se casse la jambe au cours d'une partie de rugby à cheval. Là,
Ah oui, le truc, le Bajouski, là, le Boujouski, là, Boujouki, non pas Boujouki, enfin un autre.
Voilà,
le truc en Afghanistan, là, oui.
Voilà, il a une belle fracture ouverte, on passe par l'hôpital, et le serviteur arrive, la gueule en faire pour lui prendre la température. Et le mec qui est un sauvage de la steppe, il saute par la fenêtre, avec sa fracture ouverte.
Ah, galop, tu parles, piquant encore.
Ça va pas, ben.
Ça va. Alors, ces suppositoires, je suppose, n'étaient pas du tout formulés pour votre truc.
Bon, j'ouvre la boîte et je vois, la première chose que je vois, c'est...
Interdit aux hépatites.
Formellement, déconseillé.
C'est pas possible.
En cas d'atteinte cellulaire hépatique.
C'est pas possible.
Le mec, il a une boutique de pharmacie. Alors, je vais pas dire où elle est à Bagnols, mais je dirais que c'est... C'est pas celle qui est sur le front de mer.
D'accord.
Voilà.
Ne faisons pas de vent.
Peut-être que des gens nous écoutent.
Enfin, tout ça a été effrayant. Parce que vraiment, voilà. On est malade. En plus, il faut être en garde sur tout. C'est pas bon. C'était pour.
Ah ouais, ouais. Mais il faut tout vérifier.
Serge, allez. On abuse.
Je ne partirai pas à cette ville.
Bon. En tout cas, on n'abuse pas plus de vous. Parce que c'est un gros effort que vous avez concentré ce soir pour nous parler quelques minutes. Je crois que ça aura fait. Très, très plaisir aux auditeurs et enfin moi en particulier, à Victoria, à tous ceux qui sont ici et puis à tous ceux qui nous écoutent, à qui nous demandons toujours bien sûr de continuer à prier pour votre rétablissement. Peut-être aurons-nous le bonheur de vous entendre un petit peu la semaine prochaine, si Dieu veut.
Oui, j'essaierai. Bah, oui, je voudrais bien qu'il veuille. Parce que
s'il veut.
Je voulais dire, on va publier le journal.
Très bien.
Comme Henri Desquin a eu la gentillesse de l'annoncer.
Très bien, très bien.
Mais je ne rentrerai pas à Paris avant un bon bout de temps.
En quelque temps. Bah, Serge,
ouais. Je ne suis pas transportable.
Alors écoutez, nous sommes aux manettes, certains de vos amis au journal, d'autres ici à la radio. Voilà, donc il n'y a pas de problème, soyez, à cet égard au moins, soyez rassurés, c'est pas ça qui doit vous préoccuper. Mais préoccupez-vous de vous et de votre santé. Voilà, c'est ça qui nous fera plus
grand. Le Marquis, Goffman.
Ils sont sensibles à ce...
Victoria, bien sûr.
Ah ben ça, je peux pas. Que fait-on sans Victoria? On
et
se demande.
Le journal sortira le 12. Enfin, sera fait le 12.
Le 12 septembre. Merci, Serge.
Voilà, je vous embrasse à tous.
Eh ben, on vous réciproque à tous. Merci, Serge. À tout bientôt. Voilà, donc c'était Serge de Becquet, le directeur du Libre Journal, que j'occupe ce soir et qui nous a fait dans des conditions qu'on comprenait un petit peu difficiles, avec en plus le lumbago qui l'empêche de bouger beaucoup, ce témoignage très, très, très aimant. Je crois que beaucoup de nos auditeurs auront été heureux de l'entendre parce que ça fait quand même un mois et demi que nous n'avions pas entendu la voix de Serge de Becquet. Henri-Paul Falagna. Falavigna, pourquoi je vous appelle Falavigna? C'est Falavigna qu'il faut vous appeler. Pourquoi je vous appelle Falavigna? Pourquoi Falavigna? Il faut le rectifier, mais ça...
Non, mais c'est pas important.
On ne devrait pas d'enveloppe à la sortie.
C'est d'annoncer que samedi prochain à 20h, nous organisons une grande cérémonie sur le pavé du Trocadéro et que, en dépit de la presse française qui ne comprend pas et qui a tendance à culpabiliser les victimes de Bestland, et à déstabiliser et à déresponsabiliser les coupables tchétchènes,
oui.
N'apprécie pas beaucoup et ne diffuse pas nos informations. Alors, pourquoi...
Bah, vous êtes là pour les faire passer.
Voilà, donc pourquoi sommes-nous là? Pourquoi je suis là ce soir? C'est pour souhaiter que le maximum de Français et de Parisiens viennent samedi prochain sur le parvis du Trocadéro manifester leur solidarité avec les enfants martyrs de Beslane. Voilà, donc nous aurons...
Alors, sans vous rappeler cette épouvantable tragédie.
C'est une épouvantable tragédie qui s'est produite, ça sera le troisième anniversaire, le 1er septembre 2004. Il s'agit, c'est pour ça que nous sommes mobilisés, à mon avis, du plus grand crime d'un siècle dissivilisé. Les terroristes ont prémédité l'impensable. Ils ont confié à des kamikazes la mission de prendre en otage les 1300 enfants des écoles de Beslan. Le 1er septembre 2004, le jour de la rentrée des classes. Rendez-vous compte, c'est le premier attentat terroriste au monde avec des enfants qui soient ciblés. Ces enfants ont été pris en otage et torturés pendant 3 jours, alors qu'ils se présentaient le 1er septembre en dimanche avec des fleurs à la main, bien habillés, devant leur nouveau professeur. Ce crime odieux a été revendiqué par le chef de guerre Chamil Bestayev, un chef tchétchène, qui a revendiqué l'attentat. Et si nous sommes très mobilisés pour venir témoigner notre solidarité sur Trocadéro samedi prochain, c'est qu'on refuse d'accepter que des terroristes aient osé délibérément de s'attaquer au bien le plus sacré, des enfants.
Alors, je veux dire, moi, je donne mon sentiment, Henri Paul, sur ce sujet, parce que je ne vois pas qu'on dise que je roule pour Poutine. Moi, je roule pour personne. J'observe simplement que, dans cette affaire, il y a une chose qui n'est pas admissible, qui ne peut être en aucun cas de figure admissible, quelle que soit la légitimité d'une cause politique ou autre. Il y a une chose qu'on ne fait pas. On ne prend pas des enfants en otage, on ne prend pas d'otages en général, et en particulier pas d'enfants, pour faire triompher sa cause. C'est-à-dire que des gens qui font ça sont des gens qui ne sont plus humains, c'est des gens qui se ravalent au niveau de l'animal, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Alors, qu'on vienne pas, parce que je sais que les messages vont arriver pour dire « Oui, vous roulez pour Monsieur Poutine ou pour le FSB » ou je ne sais pas pourquoi que je m'en fiche totalement de ça à un point. Je dis que simplement, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et je ne crois pas qu'une cause soit juste quand elle utilise de telles méthodes pour se faire, pour aboutir.
Voilà, c'est alors, ce que je peux vous préciser que ces enfants ont été torturés pendant 3 jours et 3 nuits avec une température estivale extrême. Sans nourriture, sans boisson, ils ont été enfermés dans un gymnase et tous réunis. Devant eux, les kamikazes ont armé les bombes qui entouraient la salle et ils les ont terrorisés pendant 3 jours en exécutant des dizaines d'otages, laissant les corps des enfants se gonfler parmi leurs camarades et se décomposer. Lorsque les kamikazes ont fait exploser les bombes, les enfants survivants se sont échappés par les fenêtres. Et ce qui s'est passé, nous avons les témoignages de Paris Match et de la BBC qui ont fait des films exemplaires. Les soldats russes ont été surpris, les familles ont été surprises par ces explosions. Ils ont vu des enfants s'échapper par les fenêtres, les survivants s'échapper par les fenêtres, et ces soldats se sont précipités pour les recueillir sans avoir eu le temps de mettre leur gilet pare-balles. On a les photos qui le prouvent. Et les familles qui étaient présentes, qui se passaient dans le village, sont précipitées pour essayer de les sauver et se sont fait tuer. Donc les premières victimes, mitraillées par les kamikazes. Et aujourd'hui, quand les familles se rendent dans les cimetières de Beslan, avec des fleurs, c'est aussi souvent avec des bouteilles d'eau, pour les verser sur les tombes des enfants morts de soif. Il faut savoir que certains enfants avaient bu leur propre urine pour essayer de survivre. Voilà, donc je répète, dans cette explication dramatique, on se souvient souvent des attentats terroristes de New York, par exemple, et on est tous solidaires, bien sûr, devant ces impensables attentats, mais quand les victimes sont américaines, mais lorsqu'il s'agit des Russes, on n'a pas du tout les mêmes expressions.
Alors, vous manifestez pour rappeler ces choses-là. Alors, qui vous soutient à...
Alors, samedi prochain, le Centre de langue des cultures russes, dont je vais rappeler les coordonnées, parce que c'est une organisation culturelle qui recueille les dons, le CFCR, 142 rue de Rennes, 75006, l'adresse postale, c'est boîte postale 73, 75261 Paris, CEDEX 06.
Alors, vous allez nous redire ça tout doucement. C'est le CLCR, c'est-à-dire langue et culture russe, boîte postale 73.
75-261,
CEDEX 06.
Qui est une association culturelle et humanitaire, régie par la loi 1901, qui édite depuis 1987 une gazette qui est lue dans le monde entier, qui est une revue de la presse russe, et qui a des agréments du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc,
il y a un site internet d'ailleurs, c'est www.clcr.ru. RU, ce sont donc les initiales pour Russie, donc c'est-à-dire que c'est un site qui est hébergé en Russie.
et en France, puisqu'on peut les joindre avec acfcr.arobazwanadou.fr.
Ah, mais ça c'est l'adresse courrier. Mais pour le site internet, c'est www.clcr.ru.
Tout à fait. Donc, samedi prochain, nous espérons avoir le maximum de Français qui soient solidaires, qui se déplacent sur le parvis du Troquet des Roues à 20h. Nous commençons cette cérémonie par une conférence de presse avec les journalistes qui, nous espérons, seront nombreux à venir prendre le relais de nos informations. Et lorsque nous aurons terminé cette conférence de presse, débutera une cérémonie de solidarité avec les enfants, j'espère avec toutes les chaînes de télévision russes qui seront présentes, pour nous permettre de transmettre aux survivants notre message de solidarité et d'espoir dans le futur, dans une vie meilleure. Donc après une minute de silence, nous allumerons des flambeaux au milieu du parvis du Trocadéro. Et puis nous aurons à ce moment-là, après cette minute de silence, un explicatif, un narratif qui sera prononcé pour expliquer pourquoi nous sommes là. C'est ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes. Ensuite, nous donnerons lecture d'une déclaration du président Nicolas Sarkozy qui a été extrêmement touché par cette commémoration. Et j'ai reçu donc ce message. Le président de la République, M. Nicolas Sarkozy, a été informé des projets de commémoration de la tragique Beslan le 1er septembre sur le Trocadéro à 20h. Dans un message, le président rappelle donc que cette prise d'otage avait suscité l'indignation générale et que la France avait fait part de son émotion et exprimé sa solidarité à l'égard du peuple russe. Le président Sarkozy a bien pris connaissance des activités de nos associations et nous accorde tout son soutien. Le président fait part de sa profonde sympathie pour les familles des victimes et de leurs proches. Il exprime toute la détermination de la France à poursuivre sa coopération avec la Russie dans le domaine de la lutte antiterroriste. Voilà, donc ça c'est un message qui nous a fait beaucoup de plaisir.
Et encore un autre, vous m'avez parlé d'un autre soutien tout à l'heure, plus religieux. Alors.
Et alors là, c'est assez surprenant, parce que je ne suis pas orthodoxe. Mais en fait, nous avons reçu un message du site officiel de l'Église orthodoxe russe en Europe occidentale, qui nous est dit: soyez assurés, messieurs, de la participation et du soutien du diocèse de Chernozès, du patriarcat de Moscou, à cette noble initiative. Permettez-nous aussi de vous exprimer notre admiration pour votre travail remarquable et l'organisation exemplaire que vous affichez. Bien à vous dans le Seigneur, Hiéromoine Alexandre, secrétaire du diocèse de Chernozès, c'est-à-dire l'Église orthodoxe russe en Europe occidentale.
Voilà, c'est bien, les soutiens sont toujours bons à prendre. Alors, donc, vous nous redites la date, l'heure, le lieu.
Alors, la date, c'est samedi prochain à 20h pour la conférence de presse et 20h30 pour le début des cérémonies. Nous pourrons lire le message que nous a demandé de transmettre le président Sarkozy. L'ambassadeur Alexandra Daïev sera présent et exprimera, je pense, la réponse qu'il est en train de préparer au président Sarkozy. Et ensuite, nous aurons un grand spectacle gratuit qui va durer environ 1h30, 2h, avec 90 artistes qui seront en concert de solidarité. Pas tout à fait folklorique. Vous avez, au début, nous aurons un chœur français de chant religieux orthodoxe russe, ce sont des Français, qui se présenteront habillés en noir avec une chasuble pourpre. Ce groupe s'appelle Chor Russe et ils chantent en russe le Notre Père, Je vous salue Marie, et
très joli, c'est beau.
Les chants que vous pouvez imaginer religieux, mais en russe. Donc vous aurez le plaisir, si vous voulez bien être nombreux à venir avec nous, écoutez ces chants. Ensuite, les chorales Montjoie-Saint-Denis chanteront des chœurs traditionnels français et russes. Un orchestre d'accordéonistes de Saint-Pétersbourg. Nous pensons avoir 25 accordéonistes qui viendront se joindre à nous. Et puis, après, pour terminer la soirée, un guitariste d'origine ossète, c'est-à-dire de Beslan, un guitariste set viendra chanter des chants en russe et en français avec ses camarades à la guitare pour montrer aux enfants de Beslan nous espérons qu'ils nous regarderont, que les Français sont solidaires de leur détresse.
Eh bien, écoutez, Henri-Paul Falavigna, bravo pour cette initiative. Je suis content d'avoir un peu contribué à faire connaître cette cérémonie de ce samedi. Je rappelle l'adresse de l'association à laquelle on peut se renseigner, oui, à laquelle on peut s'adresser.
Et puis envoyer des dons, parce que tout est animé que par des bénévoles qui payent de leur poche. La logistique est importante.
CLCR, boîte postale 73 75 262 Paris CEDEX 06, également le site internet www.clcr.ru. Merci Henri-Paul Falavigna de ces informations. Je souhaite bien sûr beaucoup de succès à cette prochaine réunion.
J'espère qu'on pourra vous y accueillir.
si Dieu veut, vous voyez, vous savez, on ne peut pas savoir, mais enfin, si Dieu veut, oui, on ne sait pas. En plus, là, j'aurais quand même mauvais gré à dire que je suis en déplacement, parce que je serai à Paris ce jour-là, et puis vraiment, Trocadéro, c'est quand même pas très très loin.
Alors, excusez-moi, vous pouvez redire à quelle heure ça commence?
20h. À 20h. Alors à présent, vous voyez, ce soir, c'est une seconde partie un peu sur les enfants. Donc, mais là, vous allez avoir bien sûr bientôt la parole. Mais on a parlé un peu de ces enfants russes victimes du terrorisme. À présent, on va parler d'un autre sujet. On va se rapprocher un tout petit peu de l'Ouest. On va parler d'un film. Alors, c'est un film qui sort aujourd'hui. J'ai tenu vraiment à ce qu'on en parle, mais à ce qu'on en parle intelligemment. Et je crois que pour parler intelligemment de ce film, le seul moyen, c'était d'avoir notre ami Jeanne Smith au téléphone. Alors je pense que Jeanne est au téléphone.
Je suis là. Bonsoir,
eh bien,
Daniel Amiche.
Bonsoir.
À tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
Eh bien, ça nous fait très plaisir, Jeanne, de vous avoir. Nous savons en plus que c'est très gentil, puisque vous êtes en vacances. Donc, logiquement, vous avez le droit, vous aussi, au repos. Voilà, encore qu'à considérer celui que j'ai pu installer. Je trouve que les autres n'ont pas beaucoup de droits non plus. Enfin, bon, passons. Mais voilà, moi, j'ai été extrêmement intéressé par les quelques mots que vous aviez dit mercredi dernier, n'est-ce pas, dans le journal de la Riposte. Vous étiez par téléphone aussi, je crois, ce jour-là.
Non, j'étais dans le film.
Vous étiez là et vous aviez dit des choses très intéressantes sur un film qui a soulevé beaucoup de controverses, qui est ce film de ce réalisateur roumain qui s'appelle Christian Mungiu. Ce film s'appelle 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Il a obtenu la Palme d'Or cette année à Cannes, ce qui a priori ne le rendait pas très sympathique, je dois dire. Voilà, toujours ce qui vient de Cannes, généralement, c'est pour fameux. Et puis, extraordinairement, c'est un film sur un problème d'avortement clandestin dans la Roumanie de l'époque de Ceaușescu, donc vous pouvez s'atteindre au pire. Et vous, Jeanne Smith, vous avez vu ce film, et peut-être parce que vous êtes une femme et que vous avez une réflexion, un sentiment différent de nous autres hommes, hein. Sur cette question, vous l'avez vu peut-être différemment de ce qu'une critique un peu rapide aurait pu dire sur ce film. Alors racontez-nous ça.
Alors je vais vous dire, en effet, avant de mettre les pieds dans la salle où se donnait la pré-projection, je m'attendais véritablement au pire, et le pire tel qu'il a été décrit par l'Osservatore Romano il y a quelques jours, qui a condamné ce film absolument sans appel en disant que c'était une exploitation honteuse de l'habitude des spectateurs, de ceux qui vont au cinéma, qui ont l'habitude de tout voir, et bien maintenant on leur montre un avortement comme si c'était quelque chose de tout à fait naturel. Et comme si...
Le film, voilà ce que dit le Osservatore Romano, le film sordide et verbeux, écrit le Osservatore Romano, est construit pour exhiber à l'écran, au terme de presque 2 heures de monotonie, un fœtus, ou plutôt un enfant de presque 5 mois, exposé sur le sol d'une salle de bain. Voilà, l'Osservatore Romano a fait une critique extrêmement féroce de ce film.
Très féroce et qui ne me paraît pas juste, avec tout le respect que j'ai pour ce journal. J'ai donc vu le film et j'ai été extrêmement frappée par sa dimension morale, parce que c'est un film qui montre un avortement clandestin dans la Roumanie de Ceaușescu. On est en 1987, soit à peu près 20 ans après l'interdiction de l'avortement. Et alors, ce qu'il importe de souligner, me semble-t-il, c'est que l'avortement est interdit en Roumanie pas du tout parce que c'est moralement mauvais ou parce que cela entraîne la mort d'un être humain, mais tout simplement parce qu'il fallait beaucoup de bras pour le communisme, que Ceaușescu tablait sur une fécondité des femmes à 5 enfants par femme en 2000. Vous voyez, c'est, on est dans une... Dans le mauvais versant, si vous voulez, du natalisme, on est dans une optique purement matérialiste. Il n'y en a pas d'autre en Roumanie. Et que ce soit de la part du gouvernement, d'ailleurs, de la dictature du parti où vous avez ce matérialisme, ou de la part des Roumains qui, eux, vivent sous cette pression et qui ne peuvent avoir comme réponse que le matérialisme, puisque tout le reste est en voie de disparaître, eh bien... quelle que soit la façon dont on retourne le problème, on n'arrive pas à avoir de réflexion morale sur l'avortement. C'est à peu près ce que dit Christian Mungiu.
Oui, oui,
et
oui.
Ce qu'il a voulu montrer, si j'ai bien lu ce qu'il lui-même dit de ce film, c'est que, quoi qu'il en soit, l'avortement pose un problème moral. Alors son film a ceci d'extrêmement fort.
Je crois qu'il le disait, j'essaie de retrouver mes petites fichettes, mais il disait cela dans un article qui est paru hier aujourd'hui dans La Croix d'ailleurs. Il a donné un entretien à La Croix, un entretien qui se conclut par cette phrase, et je crois qu'on ne peut qu'être au moins d'accord sur ce point. Il dit: l'avortement n'est pas une méthode de contraception.
Voilà,
c'est déjà un point très important. Hein.
Oui, alors il dit ça, pourquoi? Parce que sous la Roumanie de Ceausescu, lorsqu'une femme tombe enceinte sans l'avoir voulu, eh bien, elle n'est pas aidée. Une mère célibataire qui a un enfant se voit arracher son enfant, qui est mis dans un orphelinat. On sait très bien qu'à la chute du communisme en Roumanie, on a trouvé des dizaines de milliers d'enfants
abandonnés dans des états déplorables.
Déplorables. Donc, si vous voulez, c'est tout ce contexte qui fait qu'en Roumanie, avant la chute de Ceausescu, eh bien, une femme pensait ne pas avoir d'autre choix. Et je trouve que cela est très fortement montré par le film, qui est tout en finesse. Il raconte un drame, et il raconte au fond que lorsqu'une femme en Roumanie communiste était enceinte sans l'avoir voulu, eh bien, pour elle, c'était la nature des choses que d'aller avorter. Et en ce faisant, suggère Mungiu, d'ailleurs dans ses interviews plus que dans le film, elle faisait acte de liberté face à une dictature. Mais il me semble que aussi bien le scénario du film que l'impression avec laquelle on ressort, c'est que justement ces femmes n'ont pas le choix. Elles n'ont pas du tout le choix, et je crois que c'est souvent vrai pour l'avortement. Estiment, à tort ou à raison, ne pas avoir le choix. Et voilà, notamment parce qu'elles sont abandonnées par les pères de ces enfants qui viennent à la vie et qui ne peuvent pas...
Je crois que Jeanne, c'est un vrai sujet, vraiment quelque chose d'important à dire, à souligner. Évidemment, la prière est utile, mais encore une fois, la prière sans les œuvres, bon, il faut travailler à ces questions. Ça tombe absolument sous le sens. Il faut comprendre que chez beaucoup de femmes qui sont conduites à avorter, c'est une chose qui ne se fait pas de gaieté de cœur. Hein.
Ah non, pas de je crois de cœur. Que même les partisans de l'avortement l'avouent
implicitement. Ce n'est pas, encore une fois, on sait très bien que c'est quelque chose de très particulier. Et c'est en ça d'ailleurs que le film est intéressant, parce qu'il montre le résultat concret de cette affaire. Encore une fois, c'est à la société à prendre en charge de la manière psychologique, de manière financière, dans les infrastructures sociales d'accueil pour les mères célibataires, pour les enfants dont on ne veut pas. C'est à nous de faire cet effort. Ce n'est pas, encore une fois, l'avortement n'est pas le crime de la femme. L'avortement est le crime de la société qui engendre cette chose-là. C'est-à-dire...
Absolument, je dirais, mais ça fait partie de la donnée, et je pense qu'il y a une dimension qui est absente du film de Mungiu, c'est de dire c'est un enseignement sur la manière d'éviter de tomber enceinte quand on ne le veut pas, qui est tout simplement l'abstinence. Évidemment, ça n'est pas heureux pour tout le monde,
bien sûr,
et ça n'est pas c'est un idéal vers lequel on tend, j'imagine. Mais ce qui me frappe beaucoup dans le film de Mungiu, c'est qu'il n'a rien voulu cacher. C'est-à-dire que pour moi, c'est le catalogue très finement exposé de tout ce que l'avortement entraîne de souffrance et de tragédie pour celle qui est acculée d'une façon ou d'une autre.
Alors vous dites qu'il y a un détail. D'abord, je renvoie l'excellent roman. Vous avez fait un très, très, je vous l'ai dit déjà donc, deux fois, donc je vous redis une troisième fois cette fois-ci devant, sauf que quelques-uns écoutaient évidemment, enfin, donc c'est entre nous, ça ne sortira pas d'ici. Vous avez fait un magnifique, vraiment un magnifique article, mais vraiment c'est un article dossier très, très intéressant sur ce film, qui a apparu dans le présent du samedi 25 août dernier. Je rappelle l'adresse de présent, 5 rue d'Amboise, 75 002 Paris, téléphone 01 42 97 51 30, où vous montrez bien, d'abord vous décrivez le film tel que vous l'avez vu, puis en même temps vous tirez un certain nombre de leçons et vous dites ce que vous venez de nous dire, que évidemment ce film montre l'absence de choix de cette femme et de son ami, l'absence de père, l'homme est absent quasiment du film, on voit pas le géniteur, on le voit pas. Et le seul homme qu'on voit, c'est ce médecin avorteur qui va abuser de la situation de ces deux femmes pour les violenter. Vraiment, c'est vraiment effrayant. Et il y a comme ça toute une suite de logiques qui montrent quelque chose d'effrayant, quoi. C'est l'effroi, pour moi, c'est l'effroi total, quoi.
Ce qui m'a le plus frappé, finalement, c'est la manière dont le réalisateur, qui une fois de plus, il filme avec une très grande économie de moyens, on pourrait dire, dans tous les sens du terme, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais en plus, il a fait un film extrêmement simple, extrêmement direct, où le naturel est manifestement très très travaillé, si je puis dire. Eh bien, il montre que lorsque une femme avorte et lorsque quelqu'un l'aide à avorter, eh bien toutes les relations sont faussées par la suite. D'abord par le mensonge, il y a la jeune fille Gabita qui est enceinte et qui demande un avortement. Elle ment tout du long parce qu'elle sait très bien que ce qu'elle demande soit un avortement de deuxième trimestre, c'est difficile à obtenir. Elle ment à son ami, elle ment au médecin, elle ment à tout le monde. L'ami qui l'aide va payer de sa personne parce qu'elle va, c'est une jusqu'au boutiste, elle a décidé de faire quelque chose, elle y va. Mais pour ce qui est d'elle, on sent très bien que la relation d'amitié avec Gabita est à jamais déchirée, si je puis dire. Sa propre relation, donc Ottilia, l'ami qui va l'aider à avorter et qui en l'occurrence va subir un viol volontairement pour qu'elle puisse arriver à ses fins, eh bien sa propre relation à elle avec son petit ami est fracassée. Il y a ainsi toute une série de choses dont on sait très bien qu'elles sont liées à l'avortement, parce que malheureusement, le fait d'avoir mis fin à la vie d'un petit enfant, eh bien, ça vous détruit intérieurement. Et on constate très bien cette destruction intérieure. Et également cette espèce de jusqu'au boutisme dont Moon Joo explique dans une interview dans une revue anglaise, que ça a conduit une des jeunes femmes avec qui il a parlé de ses expériences qui étaient multiples, hein, dans la Roumanie de Ceausescu, et bien cette jeune fille qui avait demandé un avortement était tombée entre les mains d'un boucher qui lui avait dit: écoutez, l'avortement c'est interdit, si jamais ça se passe mal, et bien j'ai ici une cuve d'acide, je t'y mettrai, et puis comme ça il n'y aura plus de traces. Et la jeune femme accepte, elle dit ben, elle continue parce qu'on est sous l'effet d'une espèce de rouleau compresseur qui est celui du communisme, qui est celui du matérialisme et du refus de toute humanité. Je crois que c'est ça la grande leçon de ce film, même si Moon Joo se défend plus ou moins d'avoir voulu donner des leçons.
Ça c'est sûr, il voulait pas faire un film sur la morale, mais bon, sur les rapports psychologiques entre les gens, ça, les gens comprennent tout à fait ça, mais il n'empêche que la lecture que vous faites de ce film, qui est une lecture très riche, hein, qui n'est pas aussi... comment dire, aussi désinvolte que celle de l'Osservatore Romano, hein. Cette lecture riche que vous faites du film, qui n'est pas du tout une apologie du film, encore une fois, mais ce film dit peut-être plus, et c'est peut-être là où il est quand même quelque part un grand film, peut-être un chef-d'œuvre, je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu, et croyez-moi, j'irai sans doute à le voir. Mais quand un film dit plus que ce qu'a souhaité son réalisateur, c'est que là, quand même, on est dans quelque chose de plus important, et vous dites, c'est paradoxal que ce film peut, pour un certain public, être pro-vie. C'est paradoxal parce que c'était pas l'intention du cinéaste, mais comme son intention non plus c'était pas faire l'apologie de l'avortement, on se trouve dans quelque chose de mixte, dans un mélange curieux où notre amour de la vie peut trouver quand même à se rassurer en en pensant que ce film va être un peu contre-productif pour ceux qu'on appelle à, par antiphrase les pro-choix, c'est-à-dire ceux qui sont contre le choix, le vrai choix de la mère et le vrai choix de l'enfant qui est dans le ventre de sa maman.
Oui, alors je voudrais souligner que ce film n'est certainement pas tout public comme il a été placé ainsi de façon pour pouvoir passer dans les écoles et les lycées.
Ah, mais ça c'est scandaleux. Ça, c'est un scandale.
Ce film n'est pas du tout un divertissement. Il ne faut pas aller le voir si simplement parce qu'on a du temps à perdre. Mais je crois que vu la façon dont il a été primé et vu qu'il sera projeté devant des étudiants, devant des collégiens, devant des lycéens, je crois qu'il est très très important de dégager son véritable message, de démonter les leçons qui en sont tirées par les doctrinaires pro-mort, si vous voulez, qui vont en tirer argument pour dire voilà, c'est horrible, l'avortement clandestin, voilà à quoi ça conduit, à la boucherie, au viol, et bien, résultat, il faut légaliser l'avortement, c'est pas du tout ça.
Et
je voudrais dire à ce propos ce que Mounjou répond à un journaliste de Libération dans l'édition d'aujourd'hui. Il dit ceci, le réalisateur. Le débat moral sur l'avortement tel qu'il a eu lieu en Occident nous était complètement étranger. Cette carence éthique était l'une des pires conséquences induites par le communisme. C'est quand même assez fort.
C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et je me demande vraiment, enfin je sais pas, je me demande que peut-être ils lui ont donné par erreur la palme d'or à Cannes, allez savoir. Peut-être qu'on saura, Serge-Anne, dans quelques mois ou dans quelques années, des choses plus intéressantes, parce qu'il va faire d'autres films, ce Mounjou, là, donc ça peut être tout à fait sur le communisme, oui. Il appelle sur l'histoire, ouais, ça va être une saga sur l'histoire de l'âge d'or, ça c'est assez drôle. Alors, nous avons la chance, en ce moment, Jeanne Smith, vous êtes la journaliste bien connue, directrice du quotidien Présent, je rappelle l'adresse de Présent 5, rue d'Amboise, 75 002 Paris, mais vous êtes aussi mère de famille. Et nous avons la chance d'avoir dans nos studios deux mères de famille qui viennent toutes les deux nous parler d'une association, une très belle association qui s'appelle Enfance et Sainteté. Je pense que vous connaissez déjà cette association, Jeanne.
Écoutez, je crois que j'ai vu ce nom-là traîner quelque part, mais je ne me suis pas penchée plus avant.
Eh bien, on vous fera envoyer une petite documentation. C'est une association qui avait été fondée, je l'avais reçue une fois cette radio par René de Thiron-Montalembert. Vous vous souvenez de cette personne qui a fait un livre magnifique sur... la petite, comment s'appelle-t-elle, la petite Anne Guinée, voilà, Anne c'est ça. Alors, comme nous avons la chance d'avoir ici la présidente Anne Almeraz de l'association et également Ségolène de Ponta, qui est chargée un peu de la communication, qui est toutes ces deux mamans mères au foyer, si elles avaient peut-être un commentaire, une question à poser à Jeanne Smith sur ce film dont vous avez entendu parler, en tous les cas, à défaut de l'avoir vu, puisqu'il sort aujourd'hui en salle, qui s'appelle 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Oui. Anne Almeraz. Si vous avez un commentaire, une question à poser à Jeanne Smith, elle y répondra très volontiers.
Oui, c'est vrai que moi-même, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas lu de critique, donc je suis un petit peu... je ne sais pas quoi... Je suis assez sous le choc, en fait, de tout ce que vous venez de raconter, mais je me posais la question, est-ce qu'il faut montrer l'horreur pour que les gens ne recommencent pas, ou est-ce qu'il faut la cacher? Alors, ce qui m'a beaucoup effrayée, c'est comme vous avez dit que peut-être ce film passerait dans des collèges ou des lycées. Et là, je trouve que là, il faut vraiment s'insurger contre ça parce que les jeunes, à partir de 12, 13, 14 ans, qui sentent la vie monter en eux et à qui on apprend, parce que même dans des écoles, sous contrat, que finalement, les moyens contraceptifs sont des bons moyens pour ne pas avoir d'enfants, hein, quand les enfants, quand des jeunes sont obligés, parce que c'est dans le programme, de connaître tous les moyens possibles et imaginables pour empêcher la vie, il y a déjà là quelque chose qui n'est pas ajusté, enfin qui est contre la vie. Donc je crois que ça se distille au goutte à goutte. Là, vous nous montrez un film... qui paraît effroyable, mais effectivement, peut-être qu'il faut, nous les adultes, aller le voir pour combattre un peu plus pour la vie, justement, et parce que bon, je pense qu'il faut déjà beaucoup prier, parce qu'il faut retrouver un peu la paix, justement, par rapport à toute cette vague, tout ce tsunami, finalement, qui déferle partout dans le monde sur cette tuerie des enfants. Alors, on reste impuissant, mais bon, on a toujours justement à l'esprit d'avoir la prière et que Dieu est tout puissant et que rien n'est impossible à Dieu. Et je pense notamment à ce signe du ciel absolument merveilleux. Je crois que c'était donc à Mexico, la Vierge de Guadalupe.
Ah oui, ce signe lumineux sur le ventre de la Vierge de Guadalupe.
Ah, où on voit cet embryon finalement, oui. Hein, et ça, c'est apparu le jour de la promulgation de la loi pour l'avortement à Mexico. Donc Dieu est proche de nous. C'est ce message que je voudrais dire. Et que la Vierge Marie, finalement, ça pourrait paraître effroyable, mais si elle avait été avortée, on n'aurait pas eu Jésus.
Elle n'aurait pas eu le salut, ce n'est pas venu dans le monde.
Mais Jésus est là.
Même si l'enfant,
sauveur,
si on a essayé de le tuer, enfin, on ne l'a pas tué dans le ventre de sa maman, déjà, c'est quelque chose.
Par cet effroi, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, à prier pour tous ces petits-enfants qui sont au ciel et qui sont des saints qui nous précèdent? Il serait temps d'avoir une dévotion aux saints innocents, je crois. Il faudrait prier dans les églises ou à la messe pour ça.
Alors, Alain Miras, merci de cette explication. Vous êtes toujours là, ma jeune fille?
Oui,
ah, bon, vous écoutez, vous
dire, effectivement,
vous buvez du lait mêlé de miel.
Oui, vous parlez de la prière et notamment, moi je dirais plutôt qu'il faut prier pour le repos de l'âme de ces petits-enfants, parce qu'on ne sait pas où ils sont, malgré tout.
Mais je crois que l'Église s'est quand même prononcée récemment.
Je ne vais pas m'engager sur ce débat. Mais ce que je voudrais dire, c'est que faut-il montrer ces images? Alors le film de Moon Joo, il montre, c'est la scène centrale du film, il montre l'enfant avorté, et curieusement il le montre pas du tout défiguré, il le montre comme un très joli poupon à presque 5 mois de grossesse, vous imaginez, c'est tout à fait un petit enfant, hein. On reconnaît les traits, on l'imagine comme un petit baigneur, alors c'est un petit peu sanguinolent, mais ça n'est pas du tout repoussant. Et je crois que le message qu'il a voulu passer, d'ailleurs en trichant un petit peu avec la réalité, parce que le produit de l'avortement, c'est pas ça du tout, eh bien, il a voulu montrer l'humanité de l'enfant à naître, et ça, je trouve que c'est très intéressant de le montrer,
En fait, dans l'effroi, il y a la vie. Oui. Donc, effectivement...
C'est pour ça que ce film est...
Mais je disais, je mettais juste un bémol, c'était
sujet
des jeunes, si vous voulez, des lycéens ou des étudiants, je trouve que ça peut être quand même très très choquant.
Jeanne est d'accord là sur ce sujet. Allez-y Jeanne, dites-nous, parce que là c'est quand même l'aspect négatif, c'est d'abord la virevolte du ministre de l'Éducation nationale, qui est indigne de ses autres fonctions. C'est le fait que c'est cette autorisation à tout public, ce qui ne se peut.
Oui. Même si le fait de montrer ce qu'est réellement un avortement, à mon avis, le cinéma montre tellement de scènes de relations sexuelles en faisant croire que c'est l'aboutissement d'une déclaration d'amour et qu'il ne faut rien d'autre qu'une déclaration d'amour pour en arriver là, et sans jamais montrer les conséquences de ce qui arrive. Donc ça, c'est le cinéma aujourd'hui qui laisse croire tous les films, presque sans exception. Ici, on a 24 heures ou même pas dans la vie d'une femme qui a subi cela et qui en paye les conséquences très durement. Et je pense que c'est malgré tout intéressant qu'enfin un film dise la vérité à ce propos. Je sais, pour avoir suivi un petit peu toutes les luttes anti-avortement dans les dernières années européennes, si je puis dire, que le fait de montrer ce que fait un avortement, eh bien, c'est un choc qui fait réfléchir. Est-ce qu'il faut le montrer aux enfants et aux jeunes? Évidemment pas, évidemment non, évidemment c'est épouvantable pour eux. Mais j'allais dire que ça va être fait quand même. Nous n'y pouvons rien. Nous pouvons dire que ce n'est pas bien de le montrer aux jeunes, mais le fait est, et la réalité est que cela va être montré aux jeunes.
Voilà.
Alors, et puisque ça va être montré, eh bien, il faut en tirer le langage, la leçon qui s'impose.
La leçon. Jeanne, on a reçu un message intéressant d'un auditeur, parce qu'il met ce film en parallèle avec un autre, Victorien. Vous pouvez...
Il serait peut-être utile de ressortir le film de Nathan Son, Le cri silencieux, qui à l'origine fut prévu comme une propagande pour l'avortement, comme le film actuel, et qui a mené Nathan Son à ne plus commettre d'avortement. Il en avait fait 5000.
Qu'est-ce que vous en pensez
Je l'ai vu. Et il y a beaucoup d'organisations pro-vie qui, à juste titre, en réclament la diffusion à la télévision, ce qui serait peut-être être un petit peu iconoclaste, mais lorsqu'on décrit l'enfant comme poussant un cri silencieux devant les instruments de l'avorteur, eh bien, ça sollicite quand même un petit peu l'image. Hein.
D'accord.
On peut être très touché et très frappé par ce film, on peut aussi ne pas l'être. Pour ma part, je ne l'ai pas beaucoup pété. Tandis qu'un film qui met l'accent sur à la fois la souffrance et les conséquences tragiques qu'entraîne une décision d'avorter chez une jeune femme, eh bien, je pense que ça peut avoir un retentissement plus important.
Jeanne, en tout cas, c'est une analyse qui se défend. Moi, je suis vraiment pas loin de la partager, comme vous le savez. Mais je suis pas sûr que j'aurai le courage d'aller voir ce film. J'en suis pas sûr du tout. Je vous fais confiance pour ça. Alors, Jeanne Smith, merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes Jeanne Smith, directrice journaliste et directrice du quotidien Présent, et que vous avez publié un grand papier, toute une page, qui est un papier dossier, on peut dire, sur le film donc 4 mois, 3 semaines et 2 jours, film très controversé de Christian Mounjou, et qui a eu la Palme d'Or à Cannes, et dans le dernier, l'autre article apparu dans le numéro de Présent de samedi dernier. Présent, on peut se le procurer au 5 rue d'Amboise, 75002 Paris, tout renseignement au 01 42 97 51 30. Merci ma chère Jeanne, vous rentrez quand de vacances?
Je rentre samedi. Est-ce que je peux juste ajouter que finalement
j'ai
passé ce papier sur mon blog.
Très bien, allez-y, oui, donnez votre blog.
Voilà.
Alors votre blog s'appelle comment?
Le blog de Jeanne Smith, il suffit de taper Jeanne Smith. Blog,
Jeanne Smith, S-M-I-T-S, et vous trouvez des blogs Jeanne Smith, donc vous tombez sur le blog. Bravo Jeanne, merci beaucoup.
Merci à vous.
On vous embrasse et puis rentrez vite, ça suffit maintenant, il faut se remettre au boulot là. Hein.
Ah,
à tout bientôt. Donc c'était Jeanne Smith, la directrice du quotidien Présent, qui nous entretait de ce film controversé, voilà, sur lequel moi je ne l'ai pas vu, donc j'aurais beaucoup de mal à dire. Je sais que précisément dans le supplément de l'Homme Nouveau dont nous parlions tout à l'heure, là, qui vient de paraître, il y a une critique assez intéressante de Georges Collard, qui est une critique cinématographique pour l'Homme Nouveau, mais également pour Famille Chrétienne, et qui a un point de vue assez équilibré aussi sur ce film, et qui n'est pas du tout cette espèce de forme un peu caricaturale, je dois dire, que j'ai eu la surprise de lire dans l'Osservatore Romano, qui est un voilà, parce que peut-être un homme qui écrit ça, il faut peut-être avoir une sensibilité plus féminine pour, je ne sais pas, bon, enfin, c'est une chose qui m'échappe. Alors, Anne Almeras et Ségolène de Pontac, alors Anne Almeras a déjà parlé, vous allez continuer à parler, il nous reste suffisamment de temps pour présenter cette association Enfance et Sainteté. Peut-être que l'une de vous deux, mesdames, pourrait, puisque c'est une association qui a été créé, vous m'arrêtez quand je dis des bêtises, hein, par René de Siron-Montalembert, c'est bien.
En fait, c'est vrai que
c'est elle qui est à l'initiative.
C'est René, effectivement, qui est à l'initiative au départ, parce que, en fait, René a œuvré à Rome pour la cause de béatification d'Anne de Ligny. Voilà. Donc, c'était.
Elle a fait un charmant petit livre, c'était alors, qui, je
elle
pense
a écrit un livre qui s'appelle Anne de Guigné, La sainteté de l'enfance, et effectivement, c'est édité chez Teki.
Et nous l'avions reçu il y a quelques années pour parler de ce livre.
Et donc, René s'est beaucoup penché sur la vie d'Anne de Guigné. Cet enfant qui, en fait, sa spécificité, c'est qu'elle n'est ni morte martyre et qu'elle n'a pas eu d'apparition. Et donc, elle est imitable, hein, si vous voulez, pour les enfants d'aujourd'hui. Et Jean-Paul II, quand il a écrit dans la lettre apostolique Tertio Millenio Adventiae, notre Église est l'Église des saints, elle est l'Église des martyrs, mais l'Église aussi des saints de la vie ordinaire. Et notre petite Anne de Guigné, en fait, qui nous a rassemblé, René, le père Guilmar, qui est moine de Solesmes, et moi-même, en ayant des chemins, comme vous avez pu le voir, tout à fait différents. Hein. Donc on est dans des environnements vraiment complètement différents, mais c'est vrai que la rencontre de René, la rencontre du père Guilmar, a fait que on a eu ce désir de fonder cette association. En fait. Voilà.
Enfance
et sainteté.
Et sainteté.
Mmh. Alors, il y a René était présidente des Amis d'Anne de Guigné, qui en fait postulait aussi pour la cause d'Anne. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a des grâces reçues, hein, si vous voulez, donc cette association est tenue de
transmettre
au postulateur à Rome. Voilà.
Oui, On peut donner ses dates à Anne de Guigné quand elle est née, à peu près, en gros, enfin, oui. Bah, peut-être...
Alors, elle est née le 25 avril.
Ségolène de Pontac, mais c'est peut-être, elle va pas oser parler, Ségolène.
Peut-être, j'aurais du mal, mais...
Allez-y.
Donc, elle est née le 25 avril 1911 et elle est décédée le 14 janvier 1922.
Et notre amie Renée de Thiron-Montalbert, elle est remontée au ciel, oui. Elle est montée au ciel cette année, là, il y a deux mois, trois.
Voilà, en fait, oui, Renée nous a quittés finalement pendant l'octave de Pâques. Et bon, c'est vrai qu'elle est très connue dans le milieu catholique, mais ce qui paraît la chose essentielle pour René, c'est qu'elle était d'abord vierge consacrée. Oui. Et c'est vrai que la voyant dans son cercueil avec son voile de vierge consacrée tout en blanc et son chapelet, c'était vraiment la fiancée parée pour son époux. Et je pense qu'elle n'aurait pas aimé qu'on fasse un panégyrique d'elle-même, bon, parce que c'était une théologienne. Hein. Elle a écrit des livres. Bon, c'était une femme quand même assez connue. Je suis en train de m'évader là.
Non, parce que vous posez une petite question sur René Thiron-Montalbert. Oui. Évidemment, c'est toujours voilà. Utile de rappeler ces figures tout à fait.
Oui. Enfin,
c'est des figures assez exceptionnelles.
Et alors, ce qui est étonnant, en fait, chez René, c'est qu'elle me disait qu'enfant, on lui avait fait lire La vie d'Anne de Guigné, écrite par le père Lajeunie, qui est un père dominicain. Bon, ce livre, maintenant, il est épuisé, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir qu'à la fin de sa vie, finalement, cette association lui tenait beaucoup à cœur. Bon, elle avait aussi créé d'autres associations, dont une pour les malades pour la maladie de Parkinson, et Lumière et Miséricorde. Bon. Mais c'est vrai
elle-même était handicapée. Hein.
Elle avait elle-même la maladie de Parkinson, et elle avait eu l'audace d'organiser un pèlerinage pour soutenir le pape Jean-Paul II dans sa maladie, qu'elle est allée voir avec des malades parkinsoniens. Vous voyez, son amour de l'Église allait jusque-là, parce que c'était vraiment une femme qui aimait profondément le pape aussi, et elle était de la même année, en fait. Voilà. Et donc...
Alors, l'association, parlez-moi de l'association, c'est une association nationale, que fait-elle, dans quel domaine agit-elle, quels sont vos moyens d'activité? Allez, que nous entendions votre jolie voix, Ségolène. Venez, approchez-vous, Ségolène de Pontac, on vous entend
maintenant. L'association Enfance et Santé est une tout jeune association qui n'a que 2 ans et demi d'existence et qui a déjà à son actif bientôt 3 colloques, puisque le prochain aura lieu au cérémonial à la Toussaint.
Petite piqûre de rappel pour le colloque, peu avant la Toussaint.
Le premier colloque avait eu lieu à Lisieux en octobre 2005. Il y avait déjà eu 200 personnes. Le second colloque a eu lieu à Lourdes en novembre de l'année dernière, novembre 2006, où se sont retrouvées 400 personnes, dont la moitié d'enfants. Enfance et Santé est une association en fait qui rassemble parents et enfants pour une formation doctrinale et spirituelle des enfants et des parents.
Tout à fait. Monseigneur Brincard disait qu'en fait, justement, notre association avait la spécificité, justement, de faire le lien entre la doctrine et le spirituel, si vous voulez.
Alors, ce prochain colloque aura lieu donc à la Toussaint, c'est ça? C'est-à-dire qu'il va se caler, ça tombe quelle date?
À Paray-le-Monial, du 26 octobre au 1er novembre prochain.
D'accord.
Où il y aura des personnalités assez connues, comme le père Labaki. Il y aura également Mgr Quatennens, qui est membre d'honneur de notre association.
Évêque d'Avignon.
Voilà, archevêque d'Avignon. Il y aura le père Stan Rougier, que vous connaissez certainement aussi.
Peut-être pas reçu encore ici, mais il est déjà passé, me semble-t-il.
Le recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, le père Marot, qui nous parlera, lui, et qui nous présentera le message de Jésus donc à Marguerite Marie. Et puis, il y aura également le père Thévenin, que vous connaissez peut-être, qui a fondé une mission thérésienne.
Oui, c'est connu.
Le père Guilmard, donc moine de Solème, vice-président de l'association, qui parlera de la vertu de foi. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, on est très attaché à la doctrine. Le père Laurent-Marie, qui est serviteur de Jésus et Marie.
Très connu, le père Laurent-Marie.
Et spécialiste un petit peu de Bernanos, nous parlera de l'esprit d'enfance chez Bernanos.
Vieux camarade, Laurent-Marie.
Ah bon? Et donc, le père, bon, alors j'ai pas donné le thème, effectivement, du colloque. C'est une phrase qui est tirée d'une lettre du cardinal Saraiva Martins. c'est la réflexion approfondie à la fois sur la place des enfants dans le cœur de Dieu et sur leur rôle souvent méconnu de modèle au sein de l'Église. Alors c'est vrai que, avec tout ce que nous avons entendu tout à l'heure sur les horreurs de Bézelan et puis ce film, c'est vrai qu'avec Ségolène, on est un petit peu sous le choc, je vous dirais. Hein. C'est très mystérieux, finalement, ce mystère de l'horreur de la souffrance. Et c'est vrai que, finalement, notre association, eh bien, on croit beaucoup que la sainteté de l'enfance sauvera le monde, si vous voulez. C'est-à-dire que les enfants sont impuissants, ce sont eux qui sont attaqués parce que c'est l'innocence, hein, ils ressemblent beaucoup à Jésus finalement. En même temps, ils ont une telle capacité d'amour qu'on croit que cette capacité d'amour bien, va pouvoir sauver le monde, si vous voulez. Et puis on va former les enfants très tôt à la prière, à ce cœur à cœur avec Jésus. C'est pour ça que les enfants vont aller puiser au cœur de Jésus, puisque... dans le monde, c'est le seul endroit en France où Jésus a montré son cœur. C'est quand même un privilège. Donc, on va courir. Les enfants vont accourir vers le cœur de Jésus pour épuiser justement tout cet amour, hein, puisque je crois qu'il y a une grâce particulière et il faut que les familles puissent aussi se réconforter, se rendre compte aussi qu'elles ne sont pas toutes seules. Je crois qu'il y a c'est un petit peu ça aussi le but de nos colloques.
Voilà, d'association. Voilà. Alors vous êtes toutes les deux...
C'est comme une petite église, si vous voulez. Hein.
Vous êtes maman, mère de famille, donc Anne, vous avez combien de petits enfants?
Eh bien, 7 enfants.
7 enfants, et Ségolène qui est toute jeune, hein, Ségolène. Hein.
Moi, j'ai...
Elle a 3 garçons, elle est à peine mariée, elle a déjà 3 garçons. Je ne sais pas comment elle a fait, mais vraiment, c'est défaillant. Hein. Bon, enfin, vous êtes mariée depuis pas si longtemps que ça. Parce que
7 ans, quand même.
7 ans quand même déjà, avec comme le temps passe, hein, c'est fou, vous voyez toute petite, c'est extraordinaire. Ça. Donc en 7 et 3, ça va vite quand même, la France sur peuple, là, il y a confiance. Bon. Alors comment vous faites avec vos enfants, alors comment, donc l'aîné chez vous, Anne, l'aîné à quel âge?
25 ans.
25 ans.
Enfin,
26.
Oui.
C'est pas croyable, c'est... Bon, alors, et alors le plus jeune, alors, c'est pas croyable.
Et en fait la dernière a 12 ans.
12 ans. Et alors vous, c'est des plus petits peut-être.
Des plus petits, entre 6 et 2 ans.
6 et 2 ans. Alors comment on fait avec les enfants pour les initier à cela, pour leur apprendre l'amour de Dieu et comment
eh bien, il y a quelques jours, là, je voyais une maman justement qui me disait, le premier mot que mes enfants ont dit, c'est Cré-Cœur, c'est-à-dire le Sacré-Cœur. En fait, elle habite tout près du Sacré-Cœur, cette maman, et bien voilà. Leurs petits-enfants, ils ont appris à dire Sacré-Cœur, vous voyez. Apprendre à un enfant, le premier mot qu'un enfant peut dire, c'est Jésus. Dans le mot Jésus, il y a Dieu sauve. Et c'était extraordinaire, ça nous dépasse complètement. Là, on est vraiment devant un mystère, vous voyez. Je crois que l'enfant, en fait, par cette innocence, finalement, il nous montre Dieu, si vous voulez. Donc, je crois que le but aussi de nos colloques, c'est de montrer justement cette dimension aux parents, hein, qui aient vraiment un regard d'amour sur leur enfant, parce qu'effectivement, comme vous dites, parfois on n'a peut-être pas toujours ce regard d'amour, parce qu'il y a 36 choses à faire, mais est-ce que justement, si on est une âme de prière, on peut peut-être se dire, on va élaguer un peu, voilà, aujourd'hui il y aurait tant de choses, toutes ces choses à faire, est-ce que je me remets dans l'essentiel, c'est-à-dire la prière, vous voyez ? Et à partir de là, Dieu va nous donner la grâce. Je pense aussi à, en fait, ce témoignage. Bon, là, c'est une petite fille qui, à l'adoration, parce qu'en fait, j'anime un groupe d'enfants adorateurs depuis, oui, on va dire, à peu près 17 ans. J'avais commencé pour mes propres enfants. Et je voyais cette petite fille qui était devant le Saint-Sacrement, c'était après l'école, vers 17h, qui était à genoux, donc qui s'était prosternée et puis qui était toujours... Et son papa arrive pour venir la chercher parce que c'était l'heure. Il était tout ennuyé parce qu'il dit, est-ce qu'elle est encore en train d'adorer ou pas? Et en fait, cette petite fille, elle s'était endormie, si vous voulez, sur le tapis. Vous voyez, elle avait confiance. Elle s'était endormie dans les bras de Jésus, voilà. Donc, les enfants sont nos maîtres, hein, finalement. Et alors, pour vous dire quand même, c'est que ce papa n'a pas la foi, voyez. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une puissance particulière chez les enfants. C'est-à-dire que ce sont eux qui ramènent les parents à Jésus. Et il y a deux jours, hier même, je suis allée chercher ma fille à un camp de Louvette. Et la propriétaire, qui est une amie, là, me disait qu'elle est enseignante et elle ose vraiment initier ses petits-enfants à la prière. Elle est dans une école catholique, mais bon, c'est pas toujours bien reçu par les parents. Et un père qui est venu lui dire, mais écoutez, madame, bon, c'est très bien que vous fassiez de la catéchèse, mais vous savez, là, vous en faites trop parce que mon enfant, on ne sait plus quoi faire. Il n'a envie qu'une chose, c'est de prier et on ne sait plus quoi faire, vous voyez ? Il y a, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Alors, vous nous avez parlé, effectivement, de tous ces enfants. Bon, c'est terrible. Mais en même temps, on a l'impression, vous voyez, que, bon, la Vierge Marie avance comme une armée en bataille. Ben, je dirais, les enfants avancent derrière, sans bruit, hein, comme une forêt. Bon, il y a les arbres qui tombent. Mais il y a la jeune pousse qui pousse. On l'entend pas. Mais ça vient, vous voyez, ça va. On y croit.
C'est une magnifique, magnifique association et magnifique explication de ce qu'est cette association. Vous vouliez faire un commentaire, monsieur Henri-Paul Falavigna, non ?
Oui, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'enfants et tout à l'heure, je n'ai pas mis l'accent sur un côté positif de notre projet de solidarité avec les enfants de martyrs de Vestlan qui va m'être reproché par beaucoup d'auditrices qui sont investies dans des parrainages. C'est-à-dire que la Croix-Rouge internationale, consciente de nos efforts de solidarité, nous a confié 45 enfants. Nous avons les 45 enfants, les cas les plus dramatiques de Beslan. C'est-à-dire qu'ils représentent à la fois des traumatismes somatiques, parce qu'ils en manquent un bras ou une jambe, ou on leur a arraché un rein. Des traumatismes psychologiques, parce qu'ils sont sortis de l'hôpital au bout d'un an et ils n'ont plus de famille. Et puis sociaux, parce qu'ils ont été complètement désorientés. Donc nous avons actuellement, grâce à Radio Courtoisie, une vingtaine de familles de la région parisienne qui sont opérationnelles, mais il nous reste encore une vingtaine d'enfants, je vais dire, dans nos bras pour l'instant, nous devrions pouvoir confier des parrainages. C'est pour ça que samedi prochain, nous attendons le maximum de gens. Nous aurons un stand de parrainage qui est animé. Une personne qui s'appelle Odile Genevrier, qui va transmettre tout l'amour et l'attention qu'elle pourra à ses enfants et solliciter qu'il y ait d'autres familles au sein de Radio Courtoisie qui soient candidates. C'est très important parce qu'un seul enfant, je pense à l'un d'entre eux qui cumulait tous les problèmes de la Terre, quand il reçoit un message de sa marraine de Paris, eh bien, toute la classe en profite. Et il dit, bon, moi, je ne suis pas tout seul. Parce qu'il faut savoir qu'à Beslan, il n'y a pas eu de naissance pendant 2 ans. Sur une ville de 15 000 habitants, les familles étaient traumatisées. Donc là, il y a un message d'amour pour les enfants qui est très important. Et j'avais oublié tout à l'heure de parler de cette activité.
Vous avez eu raison de reprendre la parole pour en parler, parce que je trouve que c'est une très belle,
et alors,
une très belle histoire.
Ça me permet aussi de revenir à notre petite Anne de Guigné, parce que justement, pour le moment, Anne est simplement vénérable. Il faut prier pour qu'elle soit béatifiée, parce qu'à ce moment-là, elle pourra être priée dans le monde entier. Et donc, des petits-enfants, comme les petits-enfants du Beslan ou autres, ils peuvent la voir comme modèle. C'est vrai que...
Comme Marie du Ciel aussi.
Bon, pour le moment, on peut la prier qu'à titre privé. Et alors, en fait, cet enfant, elle est imitable, vous comprenez. Et les enfants ont besoin de petits saints de leur âge.
Oui, je crois que ça c'est important. Voilà,
c'est important.
C'est les deux aspects de la civilisation contemporaine, où justement les héros, entre guillemets, ou les héroïnes qu'on donne à adorer aux enfants dans les médias sécularisés du siècle, ce sont des êtres inatteignables. Ce sont des qui ont des super forces, des machins cosmiques, des trucs absolument bons. Alors que là, ce petit modèle d'Anne de Guigné, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le modèle imitable. Parce qu'elle n'a pas fait chose extraordinaire, elle n'a pas marché sur un doigt, elle n'a pas...
C'est-à-dire qu'à 4 ans, cet enfant va perdre son papa, qui est mort à la guerre de 14. Et je vais vous dire qu'en fait, cette petite fille, elle était coléreuse, capricieuse, elle était odieuse, à tel point que le grand-père disait, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il va devenir à 20 ans? Ça va être l'horreur. Et en fait, un effet de la grâce, parce que c'est vrai qu'il faut quand même dire que les parents de cet enfant étaient vraiment de saints parents, de vrais chrétiens. Bon, mais cet enfant, quand sa maman va lui dire « Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne », si vous voulez, ça, c'est étonnant, mais cet enfant va faire une ascension spirituelle de géant. Et jamais elle ne va retomber, vous voyez. Et ça, c'est... c'est vraiment encourageant pour nos propres enfants et pour nous les parents, parce qu'on se dit, bon, eh bien, c'est possible aussi pour nos enfants. Hein. Le pape nous disait qu'on était tous appelés à la sainteté.
Oui, mais c'est le défi du 21e siècle. L'enfant
est un modèle aussi pour les adultes eux-mêmes.
C'est la sainteté partout, c'est la sainteté du sacerdoce, c'est la sainteté dans les familles, c'est la sainteté, oui. La sainteté des enfants. À mon avis, c'est vraiment... alors c'est un thème qui peut apparaître comme un peu curieux pour nos auditeurs. C'est le thème de la sainteté, c'est le thème le plus urgent qu'on ait à voir. Alors, Anne Almira, avec votre permission, je posais une question à Ségolène de Pontac, parce que vous êtes la plus jeune dans le grade le moins élevé, mais pas encore vice-présidente, elle a eu tout. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser, en 3-4 minutes, qui vous a poussé à vous intéresser à une telle association dont on va donner très rapidement les coordonnées?
Bah, je pense que comme beaucoup de mamans de jeunes enfants, j'ai besoin de moyens pour conduire mes enfants à Jésus. Et comme beaucoup de mamans que je connais autour de moi, on a vraiment besoin d'outils parce qu'on se sent toujours très désemparé quand on a des enfants en bas âge, quand ils n'ont pas encore l'âge du catéchisme. C'est que c'est des âges quand même qui intègrent beaucoup de choses, qui apprennent très facilement. Et on a ce souci de les mettre en présence de Jésus, et je crois qu'on a besoin d'outils. Et ce colloque, cette association m'a vraiment séduit pour ça. Voilà, et donc je m'y suis engagée vraiment de tout cœur, et cette association répond vraiment à mes attentes.
Vous avez besoin de moments par rapport aux petits-enfants.
Voilà.
Vous avez trois garçons, Il faut faire des filles, un peu, comme des garçons quand même. Zut, alors bon. Alors on va donner maintenant, si vous voulez bien, l'adresse de votre association Enfance et Sainteté. Mmh. Si vous pouviez nous donner très distinctement l'adresse, je ne l'ai pas là sur moi, j'étais incapable de, vous m'avez envoyé des tas de documents par internet, j'étais incapable.
Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour avoir des tracts, pour avoir des renseignements, il ne faut surtout pas hésiter. Donc si vous avez besoin de tracts, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de toutes sortes de renseignements, donc vous écrivez. Donc à moi-même, Madame Ségolène de Pontac, 46 Avenue Verdier, V-E-R-D-I-R, 92-120 Montrouge.
Alors, Ségolène de Pontac, 46 Avenue Verdier, 92-120 Montrouge. Est-ce qu'il y a aussi un téléphone où on pourrait prendre des renseignements sur cette association
un
pour le futur colloque, etc.
Numéro de téléphone 01-57-63-98-15. Et vous avez toutes sortes d'informations sur le site d'Enfance et Sainteté qui est très, très fourni, très complet, sur donc, www.enfanceetsainteté.org.
Enfanceetsainteté.org. Alors c'est sainteté, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'accent aigu, mais enfin on comprendra. Donc Enfance au singulier et Sainteté au singulier.org, le tout attaché. Alors je redonne l'adresse. Donc c'est au bon coin de Ségolène pour Paris, en tout cas, et l'Île-de-France. Ségolène
pour
toute la France. Alors, Ségolène de Pontac, 46 Avenue Verdier, 92-120 Montrouge. Le téléphone, vous pouvez prendre tout renseignement, c'est le 01-57-63-98-15. Je vous remercie beaucoup.
On peut aussi m'envoyer des mails si jamais il y a des
alors,
gens qui veulent...
Alors, les courriels, alors écoutez, on va pas trop compliquer, si vous voulez, parce qu'on aura l'occasion de se revoir, n'ayez pas peur, parce que c'est un peu compliqué. Déjà, on leur donne 54 numéros de téléphone, tous les quarts d'heure sur Radio Courtoisie, les gens vont... Alors voilà, bien, mesdames, merci beaucoup.
Merci,
on reparlera donc de votre colloque, on fera un petit quelque chose par téléphone, peut-être, ou alors Ségolène qui est presque parisienne.
Oui,
vous êtes dans la banlieue de Paris, donc c'est quasiment le 21e arrondissement, donc vous viendrez nous voir. Il reste, merci beaucoup, il nous reste 3 minutes pour les messages.
Une petite question à M. Faladinha, pour la manifestation de samedi prochain, y aura-t-il des sièges ou faut-il apporter le sien? J'ai 86 ans, j'ai l'intention de venir, mais je ne peux pas rester longtemps debout.
Il faut amener des clients, quoi.
Il faut amener des clients, parce qu'en fait, la police ne nous autorise pas de siège.
Pas mettre de...
Il y aura des barrières pour...
Et on a le droit d'apporter un siège personnel, un petit client ou un
client. Et puis, vous voulez vous rappeler les coordonnées pour les enfants martyrs de Beslam?
Vous avez la carte, non? C'est moi qui l'ai, non?
Voilà,
excusez-moi, autant pour moi. Donc voilà, donc c'est CLCR, CLCR. Boîte postale 73-75-261, Paris, CEDEX 06.
Ben,
voilà, très vite, il nous reste 1 minute et demie, Victoria.
Alors, samedi prochain, 1er septembre, de 15h à 18h30, Philippe Prévost dédicacera La France et l'origine de la tragédie palestinienne. Et Laurent Glosi dédicacera lui aussi Le mystère de la race des géants à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Alors, on rappelle que du 2 au 7 septembre 1792, dans de nombreuses prisons de Paris et de province, près de 2000 captifs furent livrés à une mort cruelle. En commémoration des martyrs et victimes des massacres de septembre, Metz célébrée selon la tradition le dimanche 2 septembre à 16h30 par M. l'abbé Mouchel en la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière dans le 5e. Vincent Berteret, auteur du livre Versailles, des jardins vers ailleurs, Le testament secret de Louis XIV, reprend ses visites guidées des jardins de Versailles. Les prochaines auront lieu le dimanche 2 septembre et le dimanche 23 septembre. Participation 20 euros par personne. Pour renseignements et inscriptions, écrire à AMDG, 4 rue Salomon Reynac, R-E-I-N-A-C-H, 78110 Saint-Germain-en-Laye. Chèque à l'ordre de AMDG et par internet et renseignements amdg@tele2.fr ou www.amdg.fr.
Eh bien, merci Victoria de toutes ces belles informations. Donc, nous nous retrouvons bien sûr la semaine dernière. Je vous invite, comme toujours, et vous l'avez senti tout à l'heure,
la semaine prochaine,
je suis un peu troublé, à continuer à prier pour le rétablissement de notre ami Serge, qui a, je crois, vraiment besoin de nos prières. Et puis, nous nous retrouvons bien sûr, donc, alors, mercredi en 8. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.